Et tu veux peut-être qu'on termine nos cigarettes avant de commencer.
C'est pas non plus précis au point d'entendre.
D'accord.
C'est pas grave, c'est parti du... de la mise en scène.
Ça fait très table ronde, intello française avec
des années 80.
Voilà.
Michel Pollack.
C'est totalement
c'est
ça.
C'est exactement ça.
Mais avec plus de nana cette fois-ci.
C'est ça.
If we could stop the time.
Bienvenue dans Il faut qu'on parle numéro 11, un podcast consacré aux conversations sur la pop culture et tout ce qu'elle nous inspire. Notre mois d'avril a été largement consacré à l'événement sériel de l'année, en tout cas pour moi, Sérimania. La 7e édition du festival s'est déroulée au Forum des Images du 15 au 24 avril. C'est un peu la colonie de vacances des sériephiles et on tenait à vous faire partager nos impressions, nos coups de cœur et même quelques récits de guerre. Pour ce récap que l'on promet hétérogène et désorganisé comme d'hab, j'ai avec moi mon parfait copilote Dom, bienvenue Dom.
Bonjour.
Mais aussi Dark Léa, qui s'appelle juste Léa dans la vraie vie, bienvenue Léa.
Bonjour.
Et une revenante des premiers jours du podcast, Alix, bienvenue Alix.
Bonjour.
Nous étions tous les quatre au festival, on a beaucoup trop de choses à dire pour un seul podcast, même un des nôtres qui dure des heures, donc on va réutiliser le format tour de table et faire un peu ce qu'on veut. Alors, premier tour, je vais commencer par votre coup de cœur. Alors, je sais que vous en avez plus qu'un, mais vous essayez d'en dire en particulier et puis vous continuez sur la suite si vous avez envie. On se permettra de dire si on est d'accord ou pas. Dom, tu veux nous parler de ton coup de cœur ?
Pour moi, c'est Beau Séjour. Donc c'est une série belge.
T'as pris l'accent quand t'as dit belge ou c'est moi qui ai rêvé?
T'as pris l'accent quand t'as dit belge.
Ok, donc d'après la majorité, j'ai pris l'accent. Donc c'est une série sur une jeune fille qu'on retrouve morte dans une chambre d'hôtel. Et on découvre par ses yeux, parce qu'en fait, on va continuer à la suivre même si elle est morte. On va suivre son fantôme ou son incarnation désincarnée. Et ce qui est très très drôle avec cette série-là, c'est qu'en fait, il y a 5 personnes qui sont capables de la voir. On va découvrir au fil de la série qui sont ces personnes. Et c'est une belle variation sur un thème dont on parlera plus tard, qui est la perte, la disparition d'un enfant ou la mort d'un enfant. Là, en l'occurrence, il y a un enfant qui meurt, mais il reste actif dans la série et c'est par ses yeux qu'on va faire l'enquête, en fait. Elle va enquêter sur sa propre mort. Ça donne lieu à des scènes extrêmement drôles, d'autres extrêmement touchantes. Il y a des scènes, c'est juste impossible de pas être profondément touché. Je pense surtout à la scène de l'enterrement avec les mots de son petit frère qui sont juste à vous arracher le cœur et le piétiner violemment. Et c'est une série à mystère, mais assez maligne. On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer derrière. Il va falloir être très patient, parce que ça commence, je crois, en janvier 2017, en Belgique. Donc avec de la chance, peut-être au mois de juin, sur Arte, parce qu'elle a déjà été acquise par Arte. Elle est déjà dans les bandes annonces de la chaîne. Donc c'est une série flamande qui n'est pas en langue française, attention, si vous la cherchez sur internet, petit coquin, elle n'est pas en langue française. Et non, ça a été vraiment un beau coup de cœur parce que ça tordait le cou un petit peu à une thématique que je retrouvais dans une série qui a fini par me fatiguer. Et en offrant un éclairage différent et une vraie sensibilité. Donc c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette année. Et il y en a d'autres après.
Mais on est assez tous d'accord, non ?
Je crois qu'on est tous d'accord. Donc moi, en plus, pour la petite anecdote, je devais voir le... Parce que cette année, donc à Sérimania, il y a eu 2 diffusions de chaque série et je devais aller à la 2e diffusion où je me suis retrouvée dans ma salle de cinéma, prêt à regarder ma série. Et puis là, il y a eu une grosse coupure de courant sur toutes les halles. Donc je n'ai pas pu la voir. J'ai pu la voir grâce à Alix, d'ailleurs, par la suite.
On ne vous dira pas comment.
On ne vous dira pas. Alix m'a permis de la voir.
I played the fifth.
Mais ça a été une très très bonne surprise et j'en avais entendu que du bien. Donc c'est vrai que malgré tout ce bien que j'en avais entendu, d'être aussi agréablement surprise, c'est toujours agréable.
Non, c'est très très drôle Beau Séjour, c'est que quand tu le regardes et que tu es un habitué de Sérimania, tu pars de la séance en disant qu'en fait il y a 10 acteurs en Belgique.
C'est à peu près ça.
T'as un acteur qui était aussi dans les nuits publiques qui était à la programmation cette année, t'as un acteur de Cordon qui était dans la programmation
il y a 2 ans, il y a un acteur de Strikers qui était
dernière.
Oui, c'est ça.
Non, mais je suis complètement d'accord. Moi, j'ai adoré toi aussi, Alix.
Ouais, ouais, moi, j'ai adoré.
Et d'ailleurs, on a peut-être. Peut-être essayer de menacer
un des auteurs
qui a eu le malheur d'être à la soirée d'ouverture et duquel on s'est un peu jeté après quelques coupes de champagne pour dire on sait que t'as les épisodes, donne-nous la suite. Et qu'il a dit mais c'est en flamand, et j'ai dit je connais une nana mariée à un flamand, on peut trouver des solutions, et il a pas voulu nous les donner.
Non, je sais, on a essayé.
Il était peut-être 2h du matin, on lui a peut-être fait peur, on était peut-être 5.
Je confirme tout.
Mais après, on a dansé avec lui, on était cool, et j'ai essayé de le convaincre de mettre Résis de France Gall dans sa prochaine série, mais ça, c'est une autre histoire. Anyway! Non, beau séjour. Et surtout, voilà, il y a un élément surnaturel dans la série qui est extrêmement bien géré, à la fois parce qu'il est. Il reste classique. Mais les règles ne sont pas les mêmes règles des fantômes qu'on trouve dans toutes les autres séries ou dans tous les films qu'on a pu voir. Et donc, il déjoue les codes habituels, mais il y a des règles. C'est-à-dire que c'est pas tout et n'importe quoi. Et du coup, ce que je disais, c'est vraiment, ce que j'ai dit plusieurs fois après en parlant avec d'autres gens, c'est vraiment du coup surprenant parce que vu que le fantôme n'interagit pas avec les objets, avec les choses comme d'habitude, d'abord c'est la surprise, et là tu te dis mais du coup c'est n'importe quoi, et tu fais ah non, c'est consistant, et ça c'est une double surprise qui rend, je trouve, le truc hyper agréable.
C'est que finalement ils ont réussi à tordre le cou à toutes les idées reçues, tout en nous faisant comprendre en moins d'un épisode finalement quelles sont les nouvelles règles et quelles sont notre nouvelle base pour ce fantôme là en l'occurrence.
Et aussi, à la fin de la diffusion de la projection, je me rappelle rien, mais je crois même l'avoir dit à Alix à la fin du premier épisode, entre le premier et le deuxième, de dire « Putain, en fait, c'est une vraie série !» Dans le sens où on a vraiment l'impression de voir beaucoup de mini-séries, beaucoup de... On a vu en plus, bon, on va en parler, mais il y a 90% de la programmation, j'exagère, mais on avait un peu cette impression, c'est en gros, il y a un meurtre dans un bled paumé où il fait pas beau, en gros, et donc il y a une saison pour l'élucider, en gros, c'est un peu le concept, et du coup, avec encore plus de dénominateurs communs d'ailleurs que ça, et dont on va parler, dont vous allez tous parler après, mais il y avait ce côté, mais là, parce que il y a un concept, il y avait ce côté série, où quand tu regardes un pilote de série, une des règles, c'est pas juste voilà l'exposition, voilà les personnages, on va suivre leur histoire, mais aussi, c'est quoi le fonctionnement, c'est quoi le dispositif, et là le fait qu'il y ait ce fantôme qui fonctionne différemment des autres fantômes, avec en plus le fait que certains personnages, et ça c'est amené hyper bien, la première personne qui voit le fantôme, la façon dont c'est présenté, il joue aussi sur la surprise et la confusion du spectateur, où là tu te demandes mais attends, pourquoi est-ce qu'elle le voit, est-ce que c'est juste une illusion ou pas, c'est tellement bien fait.
Est-ce que c'est parce qu'il est complètement pété,
parce que le mec est bourré à ce moment-là, et tu dis ouais en fait c'est juste parce qu'il est pété, et ensuite tu réalises que c'est pas ça les règles. Mais du coup il joue sur le fait de ce truc, le mystère c'est bien, mais dans les séries ou dans les films, d'ailleurs toujours le même problème, des fois en voulant créer du mystère, les auteurs créent de la confusion et c'est juste le bordel, alors que c'est vraiment un fil très, enfin c'est un équilibre très très précaire de tenir entre je vous donne assez pour que vous soyez dans le truc et que vous y croyez, et pas assez pour que vous sachiez ce qui va venir.
Mais surtout que ce qui est impressionnant quand même, c'est que tout cet équilibre de qui pourra l'avoir ou qui ne pourra pas l'avoir est quand même résolu en une scène, ça nous est montré en une scène.
Oui, c'est ça,
qui est quand même très très impressionnant en fait.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, vous spoilez pas, mais il y a un moment où, et c'est très intelligent la façon dont ils vous disent, voilà, c'est comme ça, sachez, on va trouver un élément narratif pour expliquer aux spectateurs ce qui se passe et que qui peut l'avoir. Et ça, c'est vraiment génial. T'avais l'air de vouloir dire un truc dont j'ai. Mais non, et puis mais vous êtes d'accord, non, ce côté ça fait vraie série par rapport aux autres, plutôt qu'une mini-série ou une saga ou.
Bah disons que à la fois ça change de tout ce côté très lent dont on a pris l'habitude depuis 5-6 ans maintenant avec le format scandinave, où justement il y a une longue enquête qui s'étend sur 10-12 parfois plus d'épisodes. Là on sait qu'on va avoir aussi une longue enquête sur une saison, mais on a l'impression qu'il y aura plus d'éléments au cas par épisode par épisode, plus exactement.
Oui, et puis ça vient aussi d'une notion un petit peu pervertie de la série, comme étant juste comme on l'a très souvent entendu pendant le festival, un long film découpé.
D'ailleurs, tu as fait un très bon tweet dessus. S'il te plaît, redis-nous ta blague.
J'en souviens plus.
Le truc, c'était le tweet de Dom qui m'a beaucoup beaucoup fait rire. C'était si une série c'est un film, c'est un long film, ça veut donc dire que la sculpture c'est une peinture en relief. Vous avez 2 heures.
C'est vrai, je tweete des trucs et après je me souviens plus. Mais oui, mais en fait, voilà, c'est une notion un petit peu étrange parce que ces auteurs arrivent sur ces projets-là en se disant, voilà, la grande différence, c'est le temps. Et juste le temps. Donc ils prennent plus de temps à exposer les personnages, à exposer les enjeux, et des fois on se retrouve avec un truc, en gros, qui est le mieux et l'ennemi du bien, c'est que c'est très très lent. Ça prend énormément de temps, et on ne voit pas le truc. Et on arrive au deuxième épisode, on se dit, en fait, le mystère, je m'en fous. Là, juste, ça y est, tu m'as déjà largué, parce que c'est beaucoup trop long. Et je trouve, sur Beau Séjour, tu l'as pas du tout, ça. Moi, j'ai vraiment envie de... Non, c'est con, c'est celle qui arrive en 2017. Je le redis, je relance. Mais du coup, j'ai vraiment envie de voir l'épisode 3 parce que j'ai vraiment l'impression d'être face à une série qui, malgré tout, prend le temps d'exposer ce personnage, mais qui ne le fait pas au détriment de l'avancée de l'intrigue. Par exemple, on en reparlera peut-être tout à l'heure, une série comme Mama's Angel, on a 45 minutes d'exposition et dans les dernières 5 minutes, la série est lancée du premier épisode. Et là, j'ai envie de dire, mais en fait, c'est déjà trop tard. Je suis déjà perdu, j'en peux déjà plus en fait. Et Beau Séjour, t'es tout de suite dedans, il y a tout de suite des enjeux, chacun a une petite histoire à raconter. Ce qui fait que oui, au niveau structurel, c'est beaucoup plus dense et on n'a pas l'impression d'être face à quelqu'un qui s'est dit « Oh, ça va, j'ai le temps ».
Mais surtout, on l'a vu, nous, je crois, le mercredi ou le jeudi, donc ça faisait presque une semaine qu'on était en festival. Toi, Léa, tu l'as vu le dernier jour.
J'ai vu le dernier jour.
Et le fait d'être aussi marqué et emballé par un truc qui est pas un truc fun, hyper rapide et tout ça, mais effectivement un truc qui quand même prend son temps, ça montre la qualité de la série aussi, parce qu'on est un peu en mode overdose au bout de 5 jours. on a vu genre 200 000 trucs et t'es là, ok, on arrive dans une petite ville, il fait pas beau. Ah, il y a un flic, ok.
Ça m'a fait rire parce que la question s'était posée de pourquoi ce côté froid dans la réalisation et tout, et en fait une grande partie de ce que les auteurs et réalisateurs nous ont raconté après la séance de projection, c'était que, bon, grosso modo, c'était essentiellement parce que en fait ils avaient pas pu faire autrement au niveau de la production que de tourner l'hiver, et qu'en fait du coup c'était un peu pas du tout fait exprès, c'était juste qu'il faisait un temps pourri et que ça s'était posé comme ça. Du coup c'est assez marrant parce que justement moi je trouve que ça donne cette espèce d'atmosphère éthérée des séries scandinaves, mais justement comme le rythme n'est pas du tout le même, on sait que ça n'est pas une série scandinave en fait.
Et sinon, il y a 2 réalisatrices aussi à la tête de cette série, ce que j'ai trouvé, elles parlaient de leur boulot de façon hyper intéressante, en disant, c'est on fait 1 jour sur 2, mais en gros, vu qu'il y en a une qui est en chaise roulante et pas l'autre, en gros, celle qui est pas en chaise roulante dit, moi je me tape la forêt, les ravins, la boue, et elle fait l'intérieur, mais c'est pas grave.
ce qui est assez amusant, c'est que d'un point de vue production, en fait, ça fait vachement sens de se dire que quand tu changes de l'extérieur à l'extérieur, c'est pas la même réalisatrice ou le même réalisateur, parce que du coup, vu que tu es déjà dans un lieu différent, le fait qu'il y ait des petits changements au niveau de la réalisation, c'est beaucoup moins choquant en fait que s'ils avaient distribué aléatoirement les scènes où là, comme je crois que c'est Chromo, où en fait il y avait plusieurs réalisateurs suivant les endroits géographiques, les lieux de tournage. Donc je trouve ça assez amusant, c'est une manière d'aborder le truc. En fait, ça, quelque part, ça fait un peu sens en fait.
Mais et aussi, j'ai trouvé que nous on a assisté à l'équipe du tournage du. On a assisté à l'équipe artistique.
Non, tu as assisté à la rencontre avec l'équipe artistique.
Voilà. Donc nous, on a assisté à la rencontre avec l'équipe artistique, avec Dom et Alix, et il y avait vraiment un côté sympa dans... Et les 2 auteurs, qui sont un homme et une femme, la façon dont ils parlaient de leur travail et dont ils répondaient en binôme aux questions, et les 2 réalisatrices qui clairement ont dit travaillent ensemble depuis hyper longtemps et se connaissent hyper bien et tout. Et il y avait la jeune actrice aussi qui était juste mais sublime et qui est incroyable, en plus qui en plus fait l'effort de parler français en disant je parle pas très bien français, et puis elle donne des réponses, je fais comment ça tu parles pas très bien français, je voudrais parler au traducteur de Série Mania parce que tu parles mieux français qu'eux, mais bon ça c'est un autre problème. Alix.
Mon coup de cœur. Alors en fait, je vais en donner 2 parce que c'est il y en a un qui
triche, vas-y, triche.
Voilà, je triche allègrement.
Je respecte les règles, ça y est.
T'as pas encore fini d'avoir quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Reste avec tes 2 pour l'instant.
Du coup, je vais parler de... Alors, mon gros coup de cœur, ça a été Marche à l'ombre, qui est une série canadienne, enfin québécoise, sur les... Alors, j'arrive jamais à expliquer ce que c'est. Voilà, les maisons de réinsertion de détenus. Et c'est une série qui est passionnante parce que c'est une série qui met en parallèle justement les gens qui travaillent dans ces maisons de réinsertion et les détenus eux-mêmes, et qui se concentre essentiellement sur les gens qui travaillent dans les maisons, mais qui du coup nous montre comment la société nous auto-piège. En fait, on s'auto-piège nous-mêmes dans un truc. Du coup, les détenus sont des gens...
les anciens détenus, hein, juste.
Oui, les anciens détenus. Enfin, en fait, là-bas, ils sont encore en train de purger leur peine. C'est un système un peu différent. Et du coup, quand ils sont en maison de réinsertion, ils sont pas libérés. Ils sont en train de finir leur peine. Et donc, ils ont des... Voilà. Du coup, mais c'est l'histoire est absolument passionnante parce que les personnages sont des personnages... vachement bien écrit, extrêmement touchant, que les situations se montent au fur et à mesure devant tes yeux jusqu'à ce que ça te prenne à la gorge. Sérieusement, moi j'ai, voilà, on a regardé du coup deux épisodes d'affilée. À la fin des deux épisodes, sérieusement, je me sentais un peu mal. Genre, je me sentais un peu étouffée. Et voilà, c'est la même réflexion par rapport à ce que tu disais pour Bosser le jour. Après avoir vu beaucoup de séries, avoir autant d'émotions et autant de réactions face à une série, c'est quand même hyper agréable. Il y en a pas quelques-unes qui m'avaient laissé complètement froide à Sérimania. Celle-là n'en faisait vraiment pas partie. Et la deuxième dont je veux parler, c'est Irresponsable, parce que dans un autre sens, voilà, c'est une série qui a été vraiment très chouette. C'est une série française, une comédie, ce qui fait du bien à la comédie française. C'est une comédie drôle. C'est ça. Déjà, j'ai envie de dire pouce levé, les mecs, pouce levé, c'est drôle. Mais ce n'est pas que drôle, ce sont aussi des personnages entiers qui sont touchants, qui sont dans des situations merdiques, qui sont voilà, donc Irresponsable, ça parle d'un jeune homme qui rentre habiter chez sa mère à la trentaine et qui va voir sa vie chamboulée par le fait qu'il va se percevoir dans le pilote. Donc je ne spoil pas trop qu'il est papa depuis 13 ans sans le savoir. Et tout d'un coup, le fait qu'il est irresponsable devient tout d'un coup un problème. Du coup, voilà, c'est extrêmement touchant, c'est très bien joué, c'est très bien écrit. Il y a justement pas du tout le défaut principal des séries françaises, qui est une diction et un phrasé dans les dialogues qui sont parfois très poussifs en français. Là, c'est vraiment très naturel et extrêmement bien traité. Et voilà, et du coup, c'est drôle, c'est touchant. Je veux dire, que demander de plus?
Alors déjà, Marche à l'ombre, je suis d'accord, hein, c'était frappant. Et vous aussi, je sais pas si vous, qui a vu Marche à l'ombre?
Moi, je l'ai vu aussi, oui.
C'était juste, enfin moi, en fait, il y a surtout quelque chose d'assez fascinant dans le rythme de la série. C'est-à-dire que le premier épisode, notamment, parce que, enfin, le deuxième épisode aussi, mais le premier épisode, c'est vraiment marquant. La façon dont il dilue dans le temps des scènes qui seraient d'habitude beaucoup plus courtes, mais pas l'effet on prend le temps. Moi je regardais je sais plus quelle autre série l'autre jour où c'était pas à Sérimania, mais où genre ils mettent 5 minutes pour quelqu'un qui est dans sa voiture la nuit sur une route, et j'étais là ok, mais en fait on s'en fout, l'atmosphère ça va 2 minutes. Et là il y a le côté où c'était notamment, il y a une scène de dîner, de conversation, où la conversation va pas, tu sais pas du tout où elle va aller, où ça ressemble à la vie, du coup, et du coup, tu perds, en tant que sériephile, on a tous des systématismes où on voit, ah ok, ça c'est la scène où il nous montre que sa mère est une connasse, ah ça c'est la scène où il nous montre qu'elle est amoureuse. Et là, tout d'un coup, tu sais pas ce que va te dire la scène.
Ouais, alors. C'est quasiment 25 minutes, la scène, hein. C'est presque tout l'épisode, en fait, le dîner.
Et moi, ce qui m'a beaucoup perturbée, en fait, c'est que, comme l'a dit Alix, c'est une série québécoise, donc qu'on a vu en version originale, pas sous-titrée, par contre. Et même s'il parle français, moi j'avoue que pendant cette scène, notamment de dîner, qui en plus est longue, où il y a pas mal de personnes à l'écran, qui en plus, bah c'est un dîner, donc les gens parlent les uns sur les autres, j'avoue qu'il y a des moments où j'aurais bien aimé avoir un ou deux sous-titres.
Alors moi je l'ai vu avec des sous-titres anglais. Parce D'accord, que je ouais. l'ai vu dans la vidéo library, donc le truc pour les ouais. voilà, dans la salle des collections, et du coup t'as automatiquement des sous-titres en anglais qui apparaissent, et j'avoue que je crois que j'ai tweeté un moment, j'ai le moment où tu regardes un truc québécois et tu comprends ce qu'ils disent grâce aux sous-titres en anglais. Et c'était, et donc j'imagine que sans ouais. sous-titres j'aurais bien galéré.
Et donc c'est vrai que moi je trouvais déjà que, pardon Dominique, je trouvais déjà que qu'il y avait quelque chose d'un peu bancal, et je reste sur cette impression qu'il y avait quelque chose d'un peu bancal pour moi dans ce pilote. que au-delà de ça, j'ai quand même beaucoup aimé. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment le deuxième épisode qui m'a fait rentrer dans la série, qui m'a donné envie vraiment de voir la suite. Je pense que il y a aussi un problème de compréhension du québécois qui malheureusement.
Alors ça a été adressé à la projection par François-Pierre Pélinard-Lambert, qui est donc...
Une des personnes qui présente tout le temps des trucs à Saint-Mélien, c'est ça ?
Je cherchais le magazine pour lequel il travaille.
Je crois qu'il est au cinéma français.
Le film français.
Le film français.
Le film français, c'est un peu la tête chercheuse de Sérimania pour ce qui concerne l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada de manière générale. Il ramène toujours des.
Oui, c'est lui qui a ramené Cleverman.
C'est lui qui a ramené aussi Please Like Me. Enfin, c'est. Oui. C'est un homme de goût. Qui a dit qu'il y avait eu un long débat pour savoir s'il mettait des sous-titres français, sachant qu'il y a pas mal de dialogues où tu comprends tout à fait correctement sans être prédisposé à comprendre le québécois, ou les sous-titres anglais. Enfin, du coup, ils ont eu un long débat à savoir ce qu'ils faisaient en fait avec le truc. Donc c'est même un débat en interne. En fait.
Ouais.
C'est pas juste la projo.
Mais c'est vrai que moi, je me souviens d'une série il y a 4 ans, je crois, à Série Mania, Unité 9, dans une prison québécoise aussi, où le premier épisode, on avait des sous-titres anglais, le deuxième épisode, on n'avait pas de sous-titres du tout, si mes souvenirs sont bons.
Ouais.
Et sincèrement, j'étais larguée. Ce qui n'était pas le cas dans Marche à l'ombre, où on comprend quand même la majorité. Il y a 2-3 moments où ils nous perdent un petit peu, et bon, ça c'est, je pense, aussi une question d'habitude.
Et par contre, ce qui est très marrant avec Marche à l'ombre, c'est que ce que je trouverais être une critique dans pas mal de cas, mais l'épisode est tellement réussi en soi que je l'ai pas ressenti comme ça, c'est qu'en fait, l'épisode 2, c'est l'épisode 1. Traditionnellement, c'est ce que tu aurais eu en premier épisode.
Ouais.
En fait, tu la vois revenir après son traumatisme et tu comprends son traumatisme plus tard. Là, ils ont décidé, non, on va montrer le traumatisme. Et d'une manière tellement anti-sérielle, pour le coup, parce que
c'est
là,
ça,
c'est...
Ouais.
Tu vois pas du tout la mécanique de la série, tu la devines, mais tu la vois pas vraiment. Alors que, enfin voilà, après il y a une mécanique qui s'installe derrière, ils rencontrent chacun un cas, ils s'échangent des cas, ils comparent, ils discutent, ce qui est très intéressant. Mais en fait, l'épisode 2, c'est l'épisode 1.
En fait, c'est un épisode 0, le pilote,
ouais,
c'est vraiment
c'est
ça.
C'est un épisode 0, et en même temps,
c'est le prequel.
Ce que je trouverais très emmerdant dans beaucoup de cas, là, je l'ai trouvé assez sidérant, assez fascinant, parce que. La scène du repas est tellement réelle, tellement naturelle que du coup tu te laisses embarquer dans le truc, même si tu te dis niveau narration ça apporte très peu au final. Et à côté, ce qui se passe à la prison, donc extrêmement dramatique. Et puis alors là, c'est vraiment l'effet pervers d'une série en québécois. C'est que les Québécois ont tendance à parler, c'est toujours très, leurs échanges quand ils sont entre eux, c'est toujours très drôle, c'est toujours très léger, tout ça. Et t'as ce mélange de légèreté, et derrière, on vient te sécher avec un truc d'une noirceur et d'une... Absolument pas. Et c'est là que tu te dis que ça renforce le truc de faire du noir tout le temps. En fait, tu vois plus le noir. Que de faire du noir de temps en temps, Marche à l'ombre m'a plus touché que des séries qui sont sombres tout le temps, quoi. C'est juste parce que, voilà, il y a des moments de vie. Et derrière, il y a ces moments absolument atroces. Et du coup, tu t'en souviens tellement parce que ça dénote tellement. Et malgré tout, j'arrive à dire que Marche à l'ombre, c'est une série très sombre, quoi, finalement.
Ah, c'est clair. Mais en même temps, pour revenir sur les sous-titres, moi, je me rappelais de Crazy. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film québécois il y a un certain nombre d'années. Et pour le coup, comme beaucoup de films québécois d'ailleurs, moi, c'est dans mon expérience, les films québécois, généralement, ils sont à moitié sous-titrés. Et avec des moments complètement absurdes où un truc que tu comprends parfaitement est sous-titré et un truc que tu comprends mais absolument pas.
Ne l'est pas.
Et tu fais, ok. Et c'est vrai que c'est particulier, mais moi, j'ai toujours, enfin, traditionnellement, en France, c'est ce qu'on fait avec les films québécois, quoi. Donc, je pensais que, voilà. Bon. Pour revenir à Irresponsable, complètement d'accord avec toi, c'est drôle. On est allé voir.
Ah, ça a été une énorme surprise, Irresponsable.
On était, Léa et moi, assises l'une à côté de l'autre, et c'était le moment où, donc, premier épisode, les 15 premières minutes, j'étais, ouais. Donc, sachant que c'est un pilote de la Fémis, du nouveau cursus série de la Fémis, qu'apparemment tous ceux, parce qu'il y a plein de gens dans la presse qui avaient vu ce pilote, le pilote, c'est les 2 épisodes, en fait. Et donc, du coup, il y a, en fait, une des théories, c'est qu'une des dilutions du premier épisode qui met, je trouve, du temps, qui est un peu conventionnel dans les 10-15 premières minutes où j'étais là, encore un type qui se regarde le nombril, on s'en fout, voilà, ok, t'es responsable, t'as 30 ans, félicitations, t'as déjà vu un film de Judd Apatow, cover de toi, ok, merci. Et en fait, tout d'un coup, la révélation de ce qui se passe change le truc, et donc, si ça se trouve, c'est parce qu'ils l'ont dilué en 2 épisodes, voilà. Mais, au moment où ça, genre, je me rappelle, on s'est regardé avec les gens.
Il y a un tournant au bout de 5 minutes avant la fin qui
bah, c'est
a
quand
absolument
tu découvres
tout changé.
Le truc du fils, mais surtout la façon dont il réagit par rapport à ça. Et j'avoue qu'on s'est regardé avec Léa.
Et on a commencé à rigoler. Après, on a vu 4 épisodes, donc les trois d'après, on riait à pleine gorge. C'est comme ça qu'on
dit. À gorge déployée.
On riait à pleine gorge. Whatever that means. On riait à.
C'est le professeur de qui a oublié toutes les expressions françaises.
Non, mais là, c'est ça. Mais c'est la preuve par 3.
Non, la preuve par 9.
Mais je me demande si par 3 dans une autre langue. Non, passons. Et tout ça pour dire que c'est, on a vraiment rigolé. Tu connais pas la preuve par 9? Partage les moments what the fuck, sinon c'est pas drôle, Alex.
Non, mais du coup, je regarde les autres parce que j'essaie de comprendre s'ils essayent de faire croire que la preuve par 9 est une expression qui existe.
C'est une preuve par 9.
Alors que moi, j'aurais dit la preuve par 3.
Non, c'est la preuve par 9.
Je sais pas pourquoi. C'est très perturbant. Excusez-nous, on a un problème de définition d'expression.
Donc, spéciale dédicace au matage de série volume 6 où je me pose la question.
Que quand on recherche sur Google, les premières réponses, c'est la preuve par 9, la preuve par 3 et la preuve par Z.
Lisez le post sur le site icannotsitstill.com pour savoir ce qu'il en est. Je ferai des recherches au moment de publier le podcast. Donc c'était hyper drôle, irresponsable. Et d'ailleurs, je t'ai pas vu à la sortie d'homme et je me suis dit, il est quand même pas parti. Et tu m'as dit non, je ne suis pas partie. C'est juste
que... Non, mais c'est vrai que c'est très bien joué, c'est très bien écrit. C'est même le petit de 13 ans est incroyable. Donc c'est.
Il est excellent.
Le prochain qui me dit qu'il n'y a pas de jeunes, d'adolescents acteurs français qui savent jouer.
Ils étaient tous dans Clash. Il était dans Clash, là, il y avait une autre game qui était dans Clash, ils étaient tous dans Clash, les acteurs de cette génération-là qui savent super bien jouer, il y en avait plein, il y en avait tout un terreau, ils en ont fait une saison.
C'est la preuve par 9.
Non, la preuve par Z, les gars, on va changer maintenant, on appelle ça la preuve par Z. Ou la preuve par Y, parce que je m'appelle Alex, c'est plus drôle.
Donc vraiment, chapeau bas à OCS et puis au créateur de la série qui était.
Ouais, c'est ça, c'est un frère et une soeur. Mais dans la partie suivante, je parlerai d'un truc qu'ils ont dit, que l'équipe artistique a dit et qui me perturbe par rapport à d'autres trucs que d'autres équipes artistiques ont dit. Teasing pour la suite du podcast, c'est quand je vais parler des déceptions et sans parler des responsables directement. Léa?
Alors moi, je vais suivre l'exemple de Alix pour ne pas suivre...
Elle a 17 coups de cœur.
Voilà, non mais en fait, bah, mon gros coup de cœur, ça a été la programmation de cette année de Sériemania.
Tricheuse
où... Mais ouais, mais je triche totalement.
Michel Drucker, tout le monde est formidable.
Mais il s'avère que... Non, alors sans dire que tout le monde est formidable...
Non, parce que j'allais dire Jacques Martin, tout le monde a eu 10.
Pas mal. Enfin bon, c'est le dimanche, je pense. C'est ça.
Non mais c'est vrai que là quand on m'a demandé quel était mon coup de cœur, je me suis retrouvée comme une conne à me dire alors il y a ça. Donc en fait pour ne citer que moi il y a Nobel que j'ai absolument adoré.
J'ai raté.
Et tu vois Dominique, toi qui pensais qu'avec Beau Séjour il va falloir que t'attendes longtemps Nobel, on a vu qu'un seul épisode.
Ouais mais c'est peut-être moins long.
Nobel qui est une série norvégienne sur toute la géopolitique à l'heure actuelle, donc en Afghanistan, en Irak, avec un soldat qui revient, un sniper très exactement, qui revient en Norvège, et puis on suit sa femme travaille aussi au gouvernement, donc on suit vraiment toute cette géopolitique. Alors que sur un épisode, on a vu ça, mais ça a l'air d'être intelligent, ça a l'air d'être bien écrit, ça a l'air d'être informé, ça a l'air d'être brillamment filmé, monté. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de reproches qu'on peut lui faire, si ce n'est qu'on a vu qu'un seul épisode.
Par contre, c'est pas un reproche du tout, hein, bien au contraire, mais c'est très très dense.
C'est très dense. Et,
c'est pas du tout le genre de série qu'on regarde d'un œil. Il faut être très attentif. Sinon, et nous, il y a des portions qu'on ne comprend pas.
Ouais, c'est vrai que nous, on l'a vu le dernier jour, et c'est vrai que. Il faut trouver des bons sous-titres, ouais.
Parce que des fois, avec les trucs scandinaves, il y a des trucs un peu chelous qui
font. Ouais, il y a un truc à côté duquel je suis complètement passé, et après coup, si, en fait, tout est clair devant mes yeux, c'est juste que la fatigue est dans, je suis passé à côté de ce plan-là, et du coup, j'ai pas compris.
Et malgré le grand écran. Vraiment, si un jour vous regardez Nobel sur un petit écran, soyez très très attentif, mais je vous le recommande très chaudement.
Mais c'est Mélissa Blanco de la programmation, elle dit, allez, trucs qu'il faut voir, c'est, elle m'avait dit 3-4 trucs et il y avait Nobel et j'ai pas pu le voir et je suis un peu dégoûtée.
Donc voilà, donc bah écoutez, ce sera mon coup de cœur. Non mais sinon, moi j'avais aussi La Trêve que j'ai énormément aimé cette année. Donc qui est une série belge et qui a eu le prix du public, je crois.
Non, ça a eu un des prix des séries francophones. C'est cette année, c'est plus les séries françaises, c'est les séries francophones et du coup tous les prix donc, ont voilà. été attribués à des séries belges et québécois.
Mais on regrette parce que les comédies arrivent jamais en haut des prix.
Ouais.
Donc on le regrette pour Irresponsable.
Mais parce que pas pour,
je réitère.
Pas pour Section Zéro de Marshall.
Mais j'en parlerai des comédies à série moyenne et je suis un peu.
Bah c'est mon. Bah c'est justement c'est tu tes autres coups de cœur.
Mes autres coups de cœur, il y a Springtide qui est une série suédoise. Donc encore une fois, aussi bien La Trêve que Springtide, c'est un meurtre qu'on va élucider sur une saison. Mais je trouve qu'il y a assez de finesse dans l'écriture du scénario pour avoir quelque chose de très basique et de très banal, tout en redonnant un petit souffle de nouveauté, de fraîcheur. Donc c'est
je plus sois complètement sur Springtide. C'est vrai que c'est marrant parce que s'il faut expliquer qu'est-ce qui m'a plu dedans, ben c'est très classique. Je veux dire, si on explique et le synopsis et le voilà, ça reste un
mais c'est plein de petits détails en fait.
Un policier nordique ouais. De mais voilà, mais il y a vraiment quelque chose dans le classicisme. On n'est pas tout le temps obligé d'être innovant, on n'est pas tout le temps obligé de faire original. Des fois bien faire le boulot, c'est largement suffisant, et là pour le coup le boulot est très bien fait, je trouve.
Ouais.
Bon, plus ça parle d'un sujet qui me tient à cœur, qui est
je te rassure, on va en parler tout à l'heure aussi sur le truc, c'est un des trucs de Springtide, je plus sois aussi.
Et puis en autre coup de cœur, cette fois-ci un peu moins classique, c'était Claverman, qui est une série australienne. Donc qui parle, une série futuriste australienne qui parle notamment de la question des aborigènes et que j'ai trouvé assez inclassable.
Ouais bah disons que c'est un truc où ils utilisent le dispositif d'anticipation de fantastique en fait c'est l'adaptation d'histoires anciennes aborigènes, c'est ça.
Ouais. Oui, on se sert de tous les mythes et de toutes les histoires aborigènes pour dans un futur dystopique, donc où une certaine classe de la population est mise de côté car ils ne correspondent pas, ils ne sont pas totalement humains.
Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a quand même des aborigènes dans l'histoire. Donc il y a l'Australie moderne avec ses problématiques modernes aborigènes, plus cette nouvelle classe de personnes. Qui s'appellent les velus parce qu'ils sont plus poilus que les autres et qui ont en gros précèdent les hommes mais ne sont publiquement connus que depuis quelques mois, donc un peu l'effet True Blood, les vampires sortent du placard, là c'est les velus.
X-Men également.
Ouais. Oui, c'est ça, et ça c'est oui, bah, disons que X-Men ils sont nouveaux, c'est des mutants. Alors que là l'idée c'est qu'ils sont depuis 60 000 ans dans les montagnes et du coup ils sont traités comme on a traité les aborigènes et en même temps c'est adapté de mythes aborigènes qui précèdent la colonisation. Donc c'est pas juste des mythes qui ont été créés à cause de la façon dont ils ont été traités par les blancs en fait. Donc c'est une espèce de juxtaposition de plein de problématiques à la fois ancestrales et modernes. Et
c'était une volonté de la chaîne qui l'a diffusée, donc ABC en Australie, de faire quelque chose vraiment sur cette culture aborigène. Donc là un chapeau bas à eux car d'une part c'est important aussi de regarder son histoire et de mettre un petit peu en lumière les minorités. Et d'autre part, c'est très réussi, c'est très bien filmé, c'est très efficace. Et voilà, on attend aussi de voir la suite avec beaucoup d'impatience.
Et en fait, le créateur est aborigène et effectivement, ce truc a été développé dans un département spécial de la télé publique qui est consacré au développement d'idées. C'est vachement bien.
Attends, je récapitule. Moi, j'ai eu un coup de cœur à l'histoire. On a eu trois, donc il y a...
Attends, non, j'en ai eu quatre, moi. Attends.
Attends,
j'en ai
eu quatre.
Moi, mon coup de cœur, c'était les comédies.
Le reste de la programmation.
Non, mais en fait, c'était vous. Ce que vous avez dit, c'était des coups de cœur que j'ai eu. C'est pour ça que c'est pratique. Non, mais le coup de cœur, c'était d'avoir aussi rigolé de temps en temps. Irresponsable. Voilà, c'est ça. Irresponsable. Après, il y a un truc, c'est pas vraiment une comédie. Moi, ça m'a quand même fait beaucoup rire, mais c'est parce que je suis dépressive, donc bien sûr, moi, ça me fait toujours rire. Pas juste, en ce moment, ça va bien. Je suis juste dépressive en général, je rassure les poditeurs.
C'est vachement rassurant.
Mais non, mais tu vois, t'es dépressive, ils disent, ah, tu vas pas bien en ce moment, t'es un peu déprimée. Je fais, non, je suis dépressive dans la vie, mais.
Chronique.
Je le vis très bien. En ce moment. Et du coup, j'adore le genre de truc, et c'est The Rider, qui est la série
israélienne.
Donc, c'est un peu de l'autofiction, c'est un auteur arabe. En plus, il avait fait une série qui s'appelait Arab Labor, qui était une comédie sur comment un arabe vivait dans une communauté en Israël, dans une communauté principalement juive. Mais entre temps, il a aussi écrit. Enfin, moi, j'avais jamais vu Arab Labor, même si j'en ai beaucoup entendu parler à l'époque quand il y avait eu le scénariste en série avec un projecteur sur l'Israël, sur Israël. Et mais l'auteur a aussi écrit des chroniques dans un, je crois, hebdomadaire dans un quotidien israélien. Et plusieurs de ces papiers ont été traduits pour des segments dans This American Life, qui est un de mes podcasts préférés, dont j'ai parlé dans un épisode précédent de Il faut qu'on parle. Et autopromo. Et du coup, j'étais devenue fan de lui et de son écriture et de son humour. Et il parlait beaucoup de la situation d'être, en gros, devenu un arabe nanti. En tout cas, de classe moyenne supérieure, parce que membre de la culture, parce que auteur d'une série à succès, parce que journaliste réputé, et de vivre du coup dans des quartiers principalement juifs où les seuls arabes étaient les éboueurs et les gens qui faisaient des travaux sur les maisons des voisins. Et de son rapport lui-même, notamment, je trouverai le truc particulier de This American Life où il parle du fait d'avoir des déménageurs chez lui et de la façon dont les déménageurs arabes le regardent et l'appellent monsieur. Comme il n'est pas d'habitude habitué à être appelé, et que cette espèce de problématique d'identité, entre temps, il n'habite plus, d'ailleurs plus en Israël, il n'a pas supporté, il a écrit une chronique il y a 2 ans qui s'appelle The Experience, donc The Experiment, ouais, l'expérience de l'intégration juive arabe est un échec, je pars. Et donc il a fait une série sur, à mon avis, la période qui a précédé son départ, qui est sur ce que c'est. Mais enfin, c'est vraiment ça, c'est le personnage principal a écrit Arab Labor. Le producteur, le réalisateur d'Arab Labor, c'est vraiment eux qui jouent leur propre rôle dans la série. Juste l'acteur principal qui est quelqu'un d'autre. Et qui a une crise de la quarantaine qui est liée aussi à son âge, mais aussi sa situation sociale et sa situation culturelle. Ça n'a pas l'air super drôle quand je vous le dis comme ça. Moi, ça m'a fait beaucoup rire.
Non, je peux rire là-dedans, pas du tout.
C'est pas drôle comme Irresponsable l'est, c'est pas une comédie, c'est une comédie noire, c'est une comédie israélienne où donc on va rigoler de sujets qui ne sont pas forcément drôles, et en même temps il y a cette sensibilité qui fait que ça le devient. Mais ouais, moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, j'avoue que je l'avais vu, on l'avait vu un des premiers soirs et je commençais un petit peu à piquer du nez. Donc, mais j'en ai quand même gardé le souvenir d'un.
Plus de 4 épisodes, hein, c'est ça?
Ouais, 3 ou 4. Ouais, c'est du 30.
Minutes,
ouais. Ouais. Mais c'est vrai que 26 minutes qui sont très denses. Donc, c'est pas un épisode d'une sitcom habituelle où on peut faire l'impasse sur une des storylines. Là, c'est quand même très très dense à chaque fois. Mais c'est assez brillamment amené. Et puis, chaque épisode. Je parle d'un nouveau thème.
Oui, ça m'a fait penser à Master of None, du coup, pour ça. T'es d'accord là-dessus ou parce que les gens que j'ai dit m'ont dit non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles.
Si, d'aborder différents thèmes et de différentes problématiques à chaque épisode, oui. Ensuite, au niveau du ton, ça n'a rien à voir avec Master of None.
Bah, justement, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de similaire. En fait, dans le sens où ce qui est similaire, c'est que le personnage principal est pas spécialement éclairé au début de l'épisode. Bon, effectivement, The Rider, il reste pas vraiment éclairé, alors que Master of None, son esprit s'ouvre à travers l'épisode. Mais par contre, l'épisode te donne à toi, spectateur, les éléments qui, justement, que lui, il voit pas. Que ce soit l'épisode où il en a marre, en gros, de son mariage, et tu commences à te mettre à la place de sa femme. Dans l'épisode, tu vois son point de vue à elle. Enfin, il y a plein de choses comme ça où ça me fait penser à Master of None, cette idée de mettre un personnage principal dans une situation où il est un peu con et on comprend qu'il est un peu con.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais par contre, au niveau du ton et de la tonalité de la série, les deux sont tellement différents que qu'en fait le rapprochement peut porter à confusion, en fait. C'est plus...
Donc, ne faites pas confiance à ce rapprochement, c'est juste dans ma tête.
Si vous voyez, une fois avoir regardé la série, le rapport avec Master of None, oui, mais pas que ça donne des faux espoirs quant à,
quant à The Writer. Ah, je vais regarder un truc, c'est comme Master of None. Mais pourquoi il parle tout le temps du conflit israélo-arabe? Donc, et mes autres, le truc, c'est juste le fait que de mettre le marathon comédie le dernier jour, c'était une excellente idée. Parce que on a commencé le dimanche avec tous les quatre, avec Mama's Angel, des enfants morts pour changer en Israël. Et du coup, ça nous a bien plombé. Et le fait d'avoir deux marathons avec donc six comédies, même si je suis, il y avait Angie Tribeca et Baskets, dont je suis pas super fan. Mais d'ailleurs, Baskets, ce grand écran avec un public qui rit, ça change complètement l'expérience de la série. Et surtout, il y avait Crazy Ex-Girlfriend, le pilote, ce qui était trop cool. Et c'est juste, ça faisait du bien d'aller rigoler quelque part, même si c'était pas des comédies toutes super drôles. Enfin, tu vois, il y en a une sur un couple qui divorce et qui continue à vivre ensemble, un truc danois qui s'appelle Splitting Up Together. Moi, ça m'a fait rire, mais c'est vrai que c'était pas de l'humour hyper joyeux. Mais juste le fait de pas se prendre au sérieux. Il y avait une série australienne, une espèce de Family Law, qui est un peu, c'est une famille chinoise qui habite en Australie, et c'est un peu Fresh Off the Boat en version un peu plus trash parce qu'on est en Australie. Et c'était assez fun. Et donc, ouais, juste cette bonne idée d'avoir ce moment décompression le dernier jour, parce que sinon c'est vrai qu'au bout de 10 jours de polar où il fait froid et il pleut,
justement, ça sera un petit peu le bémol, mais je sais pas trop ce que ça veut dire sur on va dire la production de séries dans le monde. C'est que je trouve que dans ce festival, même si je fais confiance aux programmateurs, y a très très peu de comédies au final. Alors, est-ce que ça veut dire que le niveau des comédies à l'heure actuelle n'est pas bon? Est-ce que ça veut dire qu'un niveau standing, une comédie, ça fait moins venir de monde qu'un drama?
Est-ce que ça veut dire qu'en France, on prend aussi les comédies moins au sérieux que les dramas?
Il y a une grosse possibilité que ça soit ça aussi. Les séries sont quasiment totalement absentes des palmarès, sauf aux surprises, quand c'est... Irresponsable, ils faisaient partie des prix du...
Non, ils n'ont rien eu, alors que clairement, le public a adhéré à mort, tout le monde parlait d'irresponsable, et ils n'ont rien
eu. Au final, ils n'ont rien eu, bon, ok. Mais, je trouve ça... Déjà, le fait de faire des marathons comédies, je trouve ça sympa, et en même temps, ça me dérange un petit peu, parce que ça veut dire qu'on les met dans un coin et qu'elles n'ont pas la même mise en lumière que les autres. Est-ce que c'est un retour d'expérience sur le fait que quand on programme des comédies par 4 épisodes, ça marche moins bien que les marathons, j'en sais rien. Ça, je suis pas dans l'organisation du festival, donc je me permettrai pas de juger. Maintenant, c'est vrai que la mise de côté des comédies me gêne un petit peu. Et encore une fois, j'ai pas eu accès à toutes les séries auxquelles ils ont eu accès, donc je peux pas dire non plus si il y avait des comédies qui méritaient plus que des dramas. Mais quand on voit un petit peu ce qui ressort du festival, où on a encore des enfants morts, encore des enfants morts, encore des enfants morts, je sais que c'est une grosse tendance à l'heure actuelle à la télévision dans le monde entier, donc ça on ne peut pas un peu rien. Mais c'est vrai que du coup, des respirations, des comédies, des choses un peu drôles, moi je me souviens de Please Like Me qui était diffusée pendant la programmation générale et pas du tout dans le marathon, et ça, la salle était blindée, et tout le monde était à fond sur Please Like Me, on a parlé tous les jours suivants, donc... Je me dis, c'est un petit peu dommage, et encore une fois, je connais pas tout au niveau de l'organisation, donc je peux pas dire, mais je trouve ça un petit peu dommage cette mise à l'écart en fait de la comédie.
Je suis assez d'accord, mais d'ailleurs, du coup, tu viens de lancer le deuxième tour de table, parce que c'était déception, donc effectivement, ce bémol. Mais du coup, oui, dis-nous en plus sur les enfants morts. J'ai une autre transition, c'est que dans les marathons comédies, il y avait Angie Tribeca, dont on a déjà parlé dans ce podcast et dont je suis pas spécialement fan parce que c'est trop de la parodie franche, comme dirait Léa, je crois, c'est ça, c'est juste stupide. Non, c'était pas ça.
Ouais. Et il y a aucune finesse, on va dire.
Et quand ils l'ont présenté au marathon, c'est pareil, Mélissa Blanco qui a dit. Oui, comme vous l'avez bien compris, on a vu beaucoup, beaucoup de polars pour cette programmation. Et donc, nous, quand on a vu Angie Tribeca, ça nous a fait mourir de rire. Et je me suis dit, dans ce contexte-là, si tu viens de regarder 200 séries sur des flics et que tu regardes Angie Tribeca, tu dis, c'est génial, ils ont tout compris. Et je pense que ça m'a fait apprécier la série, c'est ça. Et du coup, je trouve ça très, très bien amené de dire qu'effectivement, dans ce contexte-là, Angie Tribeca, c'était bien choisi. Et c'était la dernière, d'ailleurs, du marathon.
Les enfants morts, les enfants qui disparaissent, les gens qui pleurent parce que leur enfant n'est plus là, ou il est mort, ou il a été déchiqueté sauvagement par un chien, je sais pas quoi. Je n'en peux plus, quoi. Stop, c'est insupportable. Merci Broadchurch, quoi. Vraiment, vraiment, merci Patrick Noll. Tu m'as pourri ma série Philippe. Tu m'as retourné la tête avec tes histoires d'enfants perdus ou morts ou violés ou je sais pas quoi. Non, je sais qu'il y a une propension à chercher les enjeux toujours de plus en plus forts. un meurtre, ça suffit plus trop. Un meurtre d'homme, ça sert plus à rien. Un meurtre de femme, ça sert plus à grand chose. Les enfants, parce que les enfants, vraiment, ça peut pas se défendre, parce que vraiment, c'est triste, parce que vraiment, tout le monde va pleurer, même ceux qui ont rien à voir avec l'enfant. Mais franchement, j'en peux plus, quoi, j'en peux plus. Et là, il y en avait, je les compte même plus, il y en avait une dizaine au moins qui traitaient de ça. Même mon coup de cœur, vous voyez, Beau Séjour, c'est un enfant qui meurt. Bon, c'est un enfant grand, hein, mais ça reste un enfant qui meurt. Mais du coup, ça finit par plus me toucher du tout. Et le point d'or, c'était Mama's Angel, où j'en avais strictement rien à faire de ce qui se passait, et l'enfant était mort, et bah...
Comme quoi, ça ne fait pas pleurer tout le monde.
Enfant, en plus, je pense que ça me transforme en une mauvaise personne. Quand l'enfant meurt, je me disais, de toute façon, il était chiant.
Non, mais le mieux de Mama's Angel, c'est quand même la première image du truc, c'est Nana... dans sa cuisine, qui regarde une photo, et c'est la photo de deux enfants morts, sans aucune explication.
Et le dernier plan, c'est un enfant mort.
Un autre, le sien.
Le sien.
Voilà, c'est ça. Ah. Entre temps, était là, la boucle est bouclée. Oui, parce que son gamin meurt à la fin de l'épisode.
Oui, oui, mais on sait pourquoi elle regarde la mille images.
Oui, on sait aussi pourquoi.
Non, mais la première image, tu la vois, après, tu comprends.
Ah oui,
mais
oui, d'accord.
Quand tu vois, okay. Ça oui, commence par une photo de deux enfants morts, et après, tu comprends que c'est un.
Et la fin,
que
c'est un. C'est
voilà, et t'es là. Et avec en plus le fait que dans Mama's Angel les mecs sont insupportables quoi. Je me rappelle, je me suis retournée à Verdum à la fin, j'ai dit mais pourquoi dans la fiction ils font que des mecs chiants, mais lui me dit c'est insupportable.
Mais moi je pense que comme dans La Trêve, en fait c'est une série qui parle de l'inefficacité et de l'incompétence, alors contrairement à La Trêve où l'incompétence est clairement dite. Dans Mama's Angel, ce n'est pas clairement dit, mais c'est tellement gros qu'on ne peut pas ne pas voir cette incompétence aussi bien chez les policiers que chez les pères. C'est juste flagrant. Donc en fait, je pense pas que ça parle de meurtre, je pense que ça parle d'incompétence masculine.
En fait, petit truc, limite, les séries comme Mama's Angel, vaut mieux les mettre en début de festif. Et tu gardes les comédies pour la fin, parce que Mama's Angel, au bout d'un moment, tu vois tous les ressorts avec... Tu vois le chien qui vient uriner sur le cadavre.
Et c'était voilà. Pas particulièrement subtil, on est
derrière,
d'accord.
Oh bah non, on peut plus prendre notre trace ADN parce que le chien avait bibi dessus. Merci. Et en fait, Mama's Angel n'est pas particulière. Ça se veut subtil. Je pense.
Mais ça ne l'est
ça
pas.
Ça se veut subtil parce qu'il y a beaucoup de moments de silence et tout, des gens qui se regardent. Mais c'est pas du tout subtil, quoi.
Et alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a eu justement des séries, bah, Springtide ou la Trêve notamment, qui sont très très subtiles dans l'écriture, dans la manière dont c'est filmé. En tout cas, moi, j'ai mon opinion.
Mais donc, oui, donc plus d'enfants morts l'année prochaine, on écrit une pétition, on lance la pétition.
Ouais, mais bon, c'est pas Série Mania qu'il faut l'annoncer, quoi. C'est toutes les productions de séries du monde qui se disent que c'est le truc qu'il faut faire, quoi, systématiquement.
Alors moi du coup je vais rebondir sur la disparition de l'enfant, parce que je voudrais dire que quand même ça a un avantage non négligeable, ce genre de grosse tendance pourrie, que moi du coup c'est marrant parce que je ne l'assimile pas à Broadchurch, pour moi, enfin je sais internationalement et médiatiquement parlant c'est Broadchurch qui l'a lancé, mais c'est marrant parce que pour moi c'est vraiment The Killing qui cristallise le premier meurtre d'enfant qui nous aura conduit à un génocide infantile, soyons clairs, sériel. Mais alors, de façon marrante, moi, il y a le côté, pendant Série Mania, un des trucs qui m'a frappé, c'est que, en effet, je suis tout à fait d'accord avec Dom, je n'en peux plus. Des meurtres d'enfants, ça devient insupportable. Mais une nouvelle micro, enfin une sous-tendance est arrivée à mon attention de cette énorme tendance d'enfants disparus, qui est la réapparition des enfants, en fait. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est extrêmement drôle, le fait que, du coup, la tendance, en devenant une espèce de mode qui, du coup, devient insupportable pour tout le monde, crée d'elle-même sa propre sous-tendance, puisque, voilà, pour essayer de retrouver quelque chose d'original à dire à propos du fait qu'il y a un enfant qui est disparu, eh bien, on décide de le faire réapparaître. Et ben, des fois, ça donne des trucs qui sont très bien. Par exemple, 13, pour le coup, qui est une série anglaise que je n'ai pas vue à Série Mania parce que je l'avais déjà vue avant, mais qui est une série sur une jeune fille qui a été kidnappée quand elle avait 13 ans et qui réapparaît 13 ans plus tard.
Fun.
Oui, non, mais alors c'est pas une série fun. Mais elle réapparaît, donc du coup l'enjeu n'est plus vis-à-vis des parents et de la police de comprendre où est l'enfant disparu, qu'est-ce qui lui arrive, voilà, de pleurer sa perte. tout l'enjeu est du coup de gérer cette réapparition, de gérer la potentielle joie, mais aussi la complexité de récupérer quelqu'un 13 ans après son kidnapping. Voilà, du coup, il y a de la même façon, alors dans un style beaucoup plus léger, puisque sans intérêt spécifiquement, mais The Five est une série voilà qui se base aussi sur la réapparition, puisqu'il y a des gens qui ont été kidnappés, ou un enfant disparu qui sont retrouvés au fur et à mesure. C'est très très étrange, ça n'a pas tellement de sens, c'est très bordélique comme série The Five, mais moi ça, pour le coup, dans cette espèce de truc un peu étrange de non importance des disparitions et des réapparitions, je trouvais ça assez fun que du coup ce soit la réapparition et qu'on se demande, alors attendez, s'il a été kidnappé quand il avait 5 ans et que maintenant il est adulte et qu'on trouve son ADN quelque part, qui est-il? Est-il un tueur? Est-il un innocent? Est-il... Voilà, du coup, la réapparition dans ce jeu-là était assez drôle. Et il y en avait une autre qui m'avait fait triper sur la réapparition. Ah ben non, c'était celle dont on parlait tout à l'heure, Bosser le jour, où en fait c'était... Pardon. Où en fait c'était une disparition sans disparition. C'était la mort sans la mort. Et du coup, je trouve ça très drôle le fait d'essayer de lutter contre cette mode tout en y participant, en décidant de faire disparaître quelqu'un, mais du coup, oh non, surprise, il est pas disparu, ou il est revenu, ou son ADN est revenu, ou voilà, du coup, ça crée toute une nouvelle tendance, et je trouve ça hyper intéressant de voir toutes les manières dont on peut traiter la réapparition.
Autant pour The Five, c'est un gimmick, autant pour Beau Séjour, c'est fait de manière brillante, et ça apporte vraiment quelque chose.
Tout à fait. Mais justement, c'est ça qui est passionnant, quoi, c'est que du coup la réapparition comme la disparition peut être traitée sous plein de façons différentes, et en l'occurrence la réapparition, comme tu peux réapparaître de plein de façons différentes aussi, que ce soit dans la mémoire, que ce soit dans en réalité dans
tes... Springtime, il y a ça aussi, hein, il y a l'idée que c'est une vieille affaire qui ressort,
oui,
et tout d'un coup
la résurgence.
Mais je viens juste à dire que je me suis complètement trompée, on est déjà au quatrième tour en fait. On a sauté, c'était pas du tout les déceptions qu'on est en train de dire. On reviendra aux déceptions plus tard, juste ne vous inquiétez pas si ça n'a aucun sens ce que j'ai dit tout à l'heure.
Mais je voulais rebondir.
Vous écoutez bien quoi qu'on parle. Vous n'êtes pas surpris en fait.
Je voulais rebondir justement sur ce que Alix disait quant à la réapparition. Moi, c'est vrai que la thématique qui m'a beaucoup marqué cette année, alors c'était pas la disparition d'enfants que apparemment j'ai très bien vécu, contrairement à tout le monde.
Qu'est-ce qu'on veut? Peu de morts d'enfants dans les séries. Quand est-ce qu'on le veut? Maintenant.
Mais moi, c'est vrai que ça m'a pas particulièrement traumatisée comme la plupart. Par contre, j'ai trouvé que la thématique qui était très 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 présente cette année, c'était, et qui englobe aussi la disparition d'enfants, c'était le retour aux racines. Donc la disparition d'enfants, c'est aussi un retour à la cellule familiale, et qu'est-ce que ça signifie quand un membre de la famille disparaît. Il y a aussi énormément de séries cette année, donc que ce soit Springtide, que ce soit La Trêve, que ce soit que Northcoff, où le personnage principal retourne dans sa vie dans son village d'enfance pour élucider un mystère, ou pour d'autres raisons.
Je vais rajouter The Catering Incident, qui est retour en Tasmanie d'une jeune femme
qui apparemment est un style littéraire, le Tasmanian gothique, dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie, mais qui est apparemment un genre littéraire.
Je connais juste le gap de Tasmanie.
Voilà, mais c'est un peu ça ce que je voulais dire aussi avant.
Mais donc c'est vrai que voilà, il y a vraiment un retour aux racines. Donc que ce soit dans le village d'origine, dans la cellule familiale,
dans l'enfance,
donc pour Springtide également, avec ce cas qui ressort, alors que c'était le cas que le père déjà devait élucider et n'a pas pu élucider, et finalement quand on voit Cleverman, c'est aussi ça, c'est un retour à l'origine du pays quelque part.
Oui.
Donc pour NSU German History X, il y a aussi un retour à l'histoire du pays, une partie de l'histoire en tout cas, et certains démons qu'il faut exorciser. Donc pour moi, ça aurait été vraiment la grosse thématique de ce série mania, c'est un retour aux racines et à notre identité en tant que pays, en tant qu'individu, en tant que communauté. Qu'est-ce que ça, dans The Writer également, on en parle de ça.
Mais
ça,
oui, il y a un épisode d'ailleurs où il va dans voir les grands-parents, et du coup il y a toute un rapport à l'histoire de la famille.
Mais je confirmerai en rajoutant aussi O.J. enfin The People versus O.J. Simpson, qui pour moi il y a aussi c'était ce côté on a pu voir à Série Mania une tendance qui est les auteurs et les réalisateurs et les producteurs n'ont pas peur de parler d'eux-mêmes et de parler de leur propre société. Il y a un restant de de retour justement vers les racines et du coup vers l'histoire et du coup ce genre de moment où les gens osent enfin parler de ce qu'ils vivent vraiment, de ce qui est vécu dans leur pays et qui sont des choses importantes et qui ont des liens avec ce qui se passe actuellement dans le pays en question.
Mais d'ailleurs, moi, ma tendance, parce que du coup, donc, vous avez compris, on est à la quatrième tour, qui était censé être le quart d'heure intello. Donc, désolé, c'était en fin de podcast, mais on vous l'a mis au milieu. Moi, en fait, tout est lié. Moi, c'est ce qui m'a frappé, c'était les minorités, le fait qu'il y ait beaucoup de minorités. Donc, notamment, il y a Jour Polaire, qui est une coproduction, franco-suédoise, en fait, voilà. ou avec Laila Bekti, mais sinon, c'est les auteurs de Brun, je ne sais jamais comment le prononcer. J'ai même demandé aux auteurs comment le prononcer, je suis toujours incapable de le faire, qui se passe dans le nord-nord de la Suède, et il y a une minorité dont je n'avais jamais entendu parler, autochtone, qui s'appelle les Samis. Et là on a vu que deux épisodes, mais toute la suite va parler de cette communauté, de comment ils sont maltraités, de comment ils ont été maltraités dans les décennies, siècles précédents, et d'une tentative de réappropriation de leur identité qui est moderne. Et d'ailleurs, on a posé la question aux créateurs qui ont dit, on leur a demandé en fait ce qu'ils ont dit pendant la rencontre avec l'équipe artistique. Ils ont dit c'est quelque chose qui est très très peu connu en Suède, et mon petit frère qui était avec nous quand on les a croisés à la sortie du forum m'a dit, tu veux pas leur demander comment, si jamais on n'en entend pas parler, pourquoi eux ils en avaient entendu parler, pourquoi eux ils s'y étaient intéressés. Et en fait ils nous ont dit, on allait les voir, ils se sont dit en fait on a entendu une émission de radio qui parlait d'une activiste Sami, et un des créateurs m'a montré son téléphone, une photo d'elle en disant j'essaierai de retrouver les infos si je peux pour le poste, et en fait on a reçu cette émission de radio et on s'est rendu compte qu'on ne savait rien dessus, et on s'est dit c'est un super sujet. Ça c'est en Laponie, c'est ça?
Ouais,
d'accord,
ouais.
Je suis nulle en géographie comme d'habitude. Et donc il y a ça, il y a les aborigènes bien sûr, avec donc Cleverman, que je vous conseille juste de regarder, parce que c'est tellement une œuvre complexe et riche, et à la fois il maîtrise le surnaturel et en même temps c'est très moderne, très politique. Donc bien sûr notre auteur arabe coincé dans sa communauté juive en Israël, les aussi donc les SDF qui sont la moitié de Springtide s'intéresse à des personnages qui sont sans domicile fixe, c'est passionnant. Les fantômes, une minorité.
Voilà.
Mine de rien, dans Nobel aussi, je rebondis sur ça, dans Nobel où on parle également, alors de manière plus implicite, mais des populations locales dans les zones de guerre.
Ouais, absolument.
Donc, avec les Indiens.
Ah, absolument, les Indiens américains. Les néo-nazis. De NSU German History X, autre minorité. Non, mais en fait, la vraie minorité, c'est les Allemands de l'Est. Voilà. Non, mais c'est les Allemands de l'Est. Les Allemands de l'Est qui ont vécu la chute du mur de façon traumatique. NSU German History X, j'ai fait une série de podcasts, de petites conversations avec des gens que j'ai croisés à Série Mania, qu'on va publier dans la suite de ce podcast. Et j'ai parlé avec plusieurs personnes de NSU German History X, qui est un téléfilm en trois parties. Je vous refais pas tout ce que j'ai dit dans ces moments-là, mais c'était vraiment un des grands moments forts du festival. Et donc cette espèce de truc de s'intéresser aux histoires qu'on ne raconte pas d'habitude, aux populations dont on ne parle pas d'habitude, y compris les détenus ou anciens détenus de Marche à l'ombre. Et ça, pour le coup, c'est juste une tendance vraiment intéressante, parce que quelque part c'est un peu un voyage, Série Mania. C'est tu fais du tourisme culturel, tu fais du tourisme intellectuel, tu vois comment d'autres gens racontent des histoires différemment, surtout tu découvres des langues, des pays, des lieux, des choses que tu connais pas. Et c'est vrai que juste de revoir The Killing / Broadchurch dans un autre pays, bon, ok. Mais quand tout d'un coup t'as des fulgurances de trucs locaux dont t'as aucune idée, c'est vraiment, moi c'est pour ça que je regarde des séries, c'est comme ça que j'ai appris à connaître les États-Unis, et quelque part c'est un vrai bonheur de pouvoir faire ça à Série Mania, et j'ai trouvé que cette année c'était particulièrement riche en autres.
Ce qui est assez intéressant avec ce genre de programmation, c'est qu'on voit à quel point les autres pays parlent de leur propre pays dans leur série, en fait. Ce qui n'est pas totalement le cas, voire pas du tout le cas en France. C'est un gros problème. La seule série qui me semble bien parler de la France, mais c'est sur un truc très marginal, c'est Irresponsable.
Voilà.
Ça parle d'un aspect de la France.
La petite banlieue.
Du système scolaire. Enfin, l'air de rien, ça aborde des sujets de société peut-être mineure.
T'as pas trouvé que Sam, ça faisait ça aussi? Sam, série TF1.
Mais ce qui est étrange, c'est que
les gens à mon boulot adorent.
Deux des autres productions françaises mises à l'honneur, c'était Jour Polaire, qui ne parle pas tant que ça de la France au final, et de Cannabis, où c'est très en toile de fond. Quoi. C'est pas vraiment, ça parle plus d'un trafic. D'ailleurs, bon, pour moi, c'est une adaptation de la série Trafic et du film Trafic, qui était une adaptation de la série, plus que ce qu'ils essaient de dire, comme quoi c'est un peu de voyeur au niveau structurel, c'est carrément Trafic. Soyons clairs.
Déjà, mais comment tu peux te réclamer The Wire sans avoir peur de te réclamer The Wire? Enfin, c'est
j'allais dire, il y a des gens qui se sont réclamés d'House of Cards, hein. Je dirais pas qui, parce que lâcher le mot Marseille, c'est...
En même temps, on y va direct, hein. C'est clair que le côté, non, mais on voulait pas que ce soit trop, ouais, on s'est inspiré de l'ambiance, mais on voulait pas trop s'inspirer l'histoire spécifique de Marseille, puisque c'est pour l'international. Mais vous avez toujours pas compris comment en fait ça marche
les séries.
Mais du coup, d'ailleurs, passons au mode déception. Non, ça vous dit pas de vraiment faire la deuxième tour de déception. Donc je vais commencer par parler de Marseille. Du coup, comme ça,
si vous savez, je n'ai pas vu Marseille.
Moi non plus.
Si vous saviez à quel point ça me donne envie de voir, juste avec d'en faire un drinking game, tout simplement, soyons clairs.
Moi aussi.
Il y a plusieurs options, hein, alors donc moi j'ai vu.
Mais j'imagine que je peux être bourrée très rapidement, en fait, avec ça.
J'ai vu trois épisodes, j'ai vu 1, 2 et 5. Pour des raisons compliquées, j'ai essayé de voir en fait plus loin si c'était mieux. Enfin pas si c'était mieux, mais voilà. Donc, catastrophe industrielle. C'est comme ça, c'est le truc des critiques soi-disant parisiens. Alors j'ai bien aimé parce que le Hollywood Reporter a fait une critique sanglante en expliquant que ça ressemblait juste aux pires séries américaines qu'on puisse trouver et rien d'autre. Et le producteur français a quand même dit en Europe, les seuls qui n'ont pas aimé sont les critiques parisiens. Et j'ai bien dit oui, il a bien dit en Europe parce que sinon il pouvait pas prendre en compte la critique du Hollywood Reporter. La Provence a écrit un très joli papier qui raconte l'histoire et qui explique qu'ils sont accros, qui à aucun moment t'explique vraiment pourquoi c'est bien comme série. Ils mettent des éléments narratifs en disant bah voyez, il se passe ça, alors c'est trop cool. Ça ressemble vraiment, j'ai appelé ça sur Twitter, mais vraiment ça, hein, ça ressemble à un communiqué de presse sous stéroïdes. À aucun moment il y a quoi que ce soit de critique dedans. Et je vous conseille juste de regarder parce que c'est franchement, faites-vous votre propre opinion. Mais je parle de Marseille parce que à Sérimania, bien que la presse avait déjà vu 5 des 8 épisodes quand même, donc on peut considérer que c'était prêt.
Et que c'était diffusé 15 jours plus tard, au final.
Et que c'est diffusé 15 jours plus tard. Ils ont décidé de présenter la série sous la forme d'un work in progress. Donc logiquement, si j'ai bien compris, les work in progress, généralement dans les festivals, en tout cas français, je sais pas trop.
La série est pas finie,
voilà, et surtout, ils te montrent des extraits, des images, des bouts, j'imagine aussi peut-être des dessins ou des trucs de recherche, de direction artistique. Là, ils ont montré un trailer de 4 minutes. Qui était une version un tout petit peu plus riche que le trailer qui était déjà en ligne, qui faisait 2 minutes et demie, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, bravo, merci. C'était un grand moment de n'importe quoi, mais j'avoue que quand il a mis 5 minutes, le réalisateur a dit « Non, mais nous, on voulait apporter du cinéma dans la série. » Genre, félicitations, on nous l'avait jamais fait, celle-là. Et alors, le deuxième truc de « Non, mais Marseille, c'est comme une femme. Tout le monde la désire, tout le monde la veut, tout le monde veut la séduire, tout le monde se bat pour elle. » Et j'étais là « Wow !» Alors, il y a plusieurs drinking games qui sont proposés. Il y a celui, chaque fois qu'ils font un commentaire sexiste, tu peux mourir assez rapidement. Chaque fois que Magimel est gross, je ne sais pas comment dire ça autrement. À l'écran et qui regarde avec ses petits yeux chafouins quelqu'un et que la nana a envie de se jeter sur lui et de se déshabiller, de se jeter sur lui pour se faire baiser, littéralement. Et on ne comprend pas pourquoi.
Moi, ce que j'aime bien sur Twitter, c'est toutes les réflexions par rapport en fait, la fascination des gens pour les sourcils de Benoît Magimel, qui manifestement semble être le seul moment, enfin la seule partie expressive de son visage, mais alors que a priori il l'utilise vraiment à outrance, quoi. Il y a aucun doute. Je trouve ça très drôle.
C'est son pénis, en fait.
Alors un des drinking games qui est sympa aussi, c'est le côté chaque fois qu'il y a un plan de Marseille, sans aucune raison entre deux scènes, il y a un plan de Marseille qui se finit par boum, il y a une espèce d'effet sonore à la fin. Il y a aussi les ralentis.
Ah oui, ça...
Comment ne peut-on pas avoir envie de regarder après ça, sincèrement?
Tout ça pour dire que, au-delà de ça, la pauvreté et l'ignorance crasse de ce que c'est qu'un objet sériel exprimé par les personnes qui étaient présente au panel était impressionnante. Quand on dit ah mais je comprends pas, vous êtes showrunner monsieur Florent Emilio Siri, c'est ça,
ouais, ça.
Que Renan Croix appelait Florian pour tout truc. vous êtes j'aurais pas dû le dire, mais vous êtes showrunner, ça veut dire quoi? Il dit ah bah en France l'auteur c'est le réalisateur. Ok, bon. Non, mais bien sûr. Alors oui, avec Thomas Gilou, l'autre réalisateur. Oui, parce que donc je donne voilà le rôle du réalisateur, c'est-à-dire, je crois qu'il a dit créer une esthétique vaguement et ensuite tout de suite et adapter les dialogues. Je dis, ah bon, c'est nouveau ça. Adapter les dialogues, c'est le rôle du réalisateur. Ah ok, bon.
Non, mais ce qui est fou, c'est en fait il y a beaucoup de gens sur Twitter qui demandent en fait une série sur les coulisses. Parce qu'en fait, quand tu les entends parler, tu te dis mais comment vous avez réussi à juste tourner des trucs? Parce que, donc il y a Florent Emilio Siri, non mais bon, moi je suis showrunner, j'ai retouché les dialogues, et puis voilà. Et t'as Dan Franck qui dit, non mais moi j'ai pas écrit les scénarios, j'ai supervisé l'écriture.
Et t'as tout le monde qui se balance,
c'est ça.
Personne
n'en veut. J'ai rien fait, c'est la faute de l'autre.
Mais après, c'est de la faute des critiques qui n'ont pas aimé, qui ont osé ne pas aimer la série.
Qui devraient se mettre à créer des trucs, parce que comme ça, on verra ce qu'ils sont capables de faire.
Moi, j'avoue que ce que j'adore le plus dans les commentaires qui sont faits, c'est vraiment le côté catastrophe industrielle, dans le sens... Tout le monde se pose vraiment la question de comment un truc comme ça est arrivé à être produit jusqu'à la diffusion, quoi. C'est-à-dire, à quel moment, pourquoi personne à un moment donné a arrêté la machine qui s'emballait manifestement dans tous les sens?
Netflix n'est pas interventionniste sur les œuvres.
En général.
Et le problème, c'est que ça crée un précédent chez nous. Ça veut dire, vous voyez, quand on vous laisse faire, regardez le désastre.
Oui, mais on vous laisse faire qui? Parce que justement, c'est ça le problème.
D'accord, mais je suis désolé, c'est comme ça que ça va ressortir. Vous voyez, quand on vous laisse faire, ça donne Marseille.
Mais sauf que généralement, c'est déjà le problème, que le moment, moi j'ai entendu plein d'histoires internes de trucs, où le moment où le réalisateur arrive, il est hyper dans la collaboration, et c'est là que je vais faire un petit clin d'œil responsable, il est hyper dans la collaboration, et le jour où on passe en tournage, je fais, ah non, je réécris tout, machin, et que c'est arrivé dans plein de productions françaises. Et que ça, du coup, c'est un vrai souci. Et ils expliquent, on est auteur parce que, soyons clairs, les droits d'auteur fonctionnent de telle façon qu'en tant que réalisateur, tu as deux parts, tu as la part auteur et la part technicien. C'est-à-dire qu'on considère que tu as un rôle en plus, alors que les scénaristes sont juste auteurs. Et il n'y a pas le côté aussi technicien ou aussi producteur ou aussi autre chose. Et du coup, automatiquement, il y a une dynamique, voilà, c'est qui gagne le plus d'argent, hein, c'est eux qui.
Je veux croire que Dan Franck, à partir du moment où il a bouclé ses scénarios, qu'il les a passés à Siri, il n'avait plus son mot à dire. Ça, je veux bien le croire. Par contre, qu'après, ils disent qu'il n'a pas géré, qu'il n'a pas écrit les scénarios. Ça, j'y crois pas une seule seconde.
Je voudrais juste aussi signaler que là, on parle quand même de Marseille parce que on est en plein dans cette actualité, mais que Sérimania a aussi diffusé Section Zéro d'Olivier Marchal, que je n'ai pas vu. Donc ça, je ne fais que reporter ce que j'en ai entendu dire, qui a l'air aussi d'être un gros navet. Mais ce qui pose aussi quand même la question de la production en France, parce que Olivier Marchal, soyons clairs, n'est pas un petit débutant dans le métier. Donc ça veut dire que ce projet a dû être quand même avoir des fonds plutôt importants. Et qu'est-ce qu'on en fait au final?
Attention, parce que moi je suis pas un fan du travail d'Olivier Marchal de manière générale. J'avais beaucoup aimé 36 Quai des Orfèvres, beaucoup moins ce qu'il avait fait derrière. Mais malgré tout, là pour le coup, qu'une chaîne mise sur Olivier Marchal, en lui donnant plus ou moins les pleins pouvoirs, vu sa carrière et ses succès, ça fait relativement sens.
Certes.
Beaucoup plus que Dan Franck et Florent Emilio.
Certes, mais malgré tout, ça fait quand même, dans les deux cas.
Dans le monde des séries, je parle, parce que Siri a fait des films.
Ça fait quand même un gros accident industriel.
Pardon.
Dans les deux cas, c'est quand même un gros accident industriel.
Pour l'instant, l'accident industriel n'a pas eu lieu.
Ouais, mais
Section Zéro, ça n'a pas été diffusé, donc on ne peut pas trop dire. Moi, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai entendu des trucs assez divers là-dessus. Il y en a qui sont qui aiment vraiment beaucoup et d'autres qui sont complètement...
T'as entendu du positif ?
Moi, j'ai pas entendu du positif,
j'ai entendu du positif de gens qui ont l'habitude d'aimer le travail de Lydia Marchand.
Après,
c'est un style très particulier. Ouais. C'est sombre, 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 noir, noir, noir. Si tu veux chercher un petit peu de légèreté, tu n'en trouves pas. C'est aussi sa manière de faire. Mais moi, je sais que c'est pas du tout ma cam et que je préfère m'exprimer sur les séries de Lydia Marchand parce que ça n'a pas de sens. J'aime pas son style, j'aime pas son style. Mais je sais pas si on peut le mettre au même niveau que Marseille, parce que Section 0 c'est pour Canal+, que Canal+ a quand même traditionnellement l'habitude d'être très présent pendant l'élaboration d'une série. Donc à mon avis, ils étaient vraiment... Alors je pense que évidemment, ils sont pas avec Olivier Marchal comme ils seraient avec quelqu'un d'autre, beaucoup plus intrusif ou quoi. Là, ils ont peut-être... Il y a peut-être eu des engueulades un peu plus vives et ils ont dû laisser passer des choses. Mais malgré tout, là, la chaîne était présente. Netflix, d'après ce que j'ai compris. Enfin, de
mais ce c'est ce qu'ils font. Oui, oui, c'est ça.
Ils sont pas là, quoi. Ouais. Ils te laissent faire ton truc.
Et en plus, ils ont dit dans le mec de Netflix, avec la question Renan. Et du coup, ils ont annoncé pendant Série Mania que les deux premiers épisodes étaient diffusés sur TF1 une semaine après sa sortie sur Netflix, donc le 12 mai. Et pour question de Renan, et d'où inquiète du coup des audiences, parce que généralement Netflix n'a jamais soumis aux audiences. Réponse, non. Il a posé son micro. Donc, alors attention, hein, je n'en veux pas à Série Mania d'avoir fait cet événement. Au contraire, je trouve ça très intéressant. Par contre, l'équipe artistique, c'était un peu du foutage de gueule. Il y a l'actrice, c'était un peu Stéphane, j'ai oublié son nom de famille, qui est pas mal d'ailleurs dans la série. Alors oui, il y a un autre truc dans Marseille qui est hyper drôle, c'est que tous les intérieurs chez elle sont clairement tournés dans les studios à côté de Marseille de la Belle machin.
Belle la vie.
Non, mais les studios s'appellent Belle quelque chose. qui sont effectivement les studios de Plus Belle la Vie, et du coup ça ressemble à Plus Belle la Vie. Donc quand tu es dans l'appartement, tout d'un coup, tu as l'éclairage et l'image de Plus Belle la Vie.
Ils ont tourné pendant le déjeuner, des tournages de Plus Belle la Vie.
En gros, c'est
ça. Les gars, ils partent bouffer, vite, vite, vite.
Et du coup, il y a le côté, oh tiens, elle est la bitch Plus Belle la Vie, alors que le reste des trucs, c'est pas tout,
c'est pas Plus Belle la Vie, j'adore.
Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez insultant sur le fait qu'après, il y a quelqu'un qui s'est permis de poser la question. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est une jeune femme qui était assise à côté de moi pendant Irresponsable et qui a posé une question qui faisait écho. Donc là, à Marseille, elle a demandé, excusez-moi, je suis un peu choquée parce que dans un festival comme Série Mania, vous permettiez de dire, on fait rentrer du cinéma dans les séries comme c'était un truc, ça fait quand même quelques années. Et donc, Florent Emilio Siri s'est senti obligé de nous faire un cours d'histoire sur la production américaine en nous expliquant non mais on dit ça mais c'est parce que vous comprenez, la crise financière de 2007 a fait que toutes les boîtes de prod satellites autour des gros studios hollywoodiens se sont fermées, donc du coup les talents n'avaient plus de... Effectivement, ça c'est un truc vrai, il n'y a plus de middle movie, les films, c'est soit des petits films, soit c'est des très gros films. Donc du coup, tous les talents se sont allés à la télévision et c'est pour ça que la télévision a éclaté. Et j'étais là... 2007. Sérieusement, donc les Sopranos, parce que pour le coup, ok, ouais. Les Français sont pas au fait toujours de toute l'histoire des séries américaines, mais les Sopranos, vous avez peut-être entendu parler, il y avait David Chase qui était là aussi à Série Mania.
Je vais te dire un truc, même les séries ont éclaté en 2005 en France, hein, pas en 2007. Mais... C'était avec Lost, c'était toute cette période-là.
Non, mais le mec, il nous explique ça, était là.
Le manque de culture incroyable dont on fait.
Ah non, mais.
On réécrit l'histoire pour se dire, bah oui, vous voyez, évidemment, ça s'est passé comme ça.
Donc, mais en plus, il y a tellement de trucs à faire sur Marseille. Il y a tellement de trucs à dire sur Marseille. Il y a tellement de trucs. Et puis, alors, c'est que du cliché. Non, mais surtout, et eux, en plus, ils avaient l'air, mais fiers, quoi. Fiers comme des pans, genre, ouais, on a fait un beau produit, on est très fiers. Enfin, on a un truc avec des stars. Et t'es là, vous vous rendez compte que vous êtes ridicules, les gars. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que cette jeune fille qui avait posé la question à Florent Emilio Siri, donc, à la fin d'Irresponsable. Parce qu'il y a eu donc l'équipe artistique, une des questions dans l'équipe artistique. Enfin, tu sentais que le réalisateur qui était là était complètement en accord avec les auteurs et puis surtout l'auteur principal parlait beaucoup du projet, c'était son projet. Et du coup, elle pose la question, excusez-moi, mais là, je vois que votre auteur principal, il a l'air très en avant là, quand vous parlez. C'est assez rare. Est-ce que c'est une décision volontaire que vous avez prise ou est-ce que ça s'est fait organiquement qu'il ait en fait son mot à dire sur la série, qu'il nous parle lui de sa série? Et alors c'était génial, c'est quand même que l'équipe artistique, genre
le producteur, le réalisateur et l'auteur regardent la nana comme si elle était martienne et font bah non, enfin je vois pas ce que vous dites. Et donc sur la défensive, bien sûr, l'auteur principal dit ah mais pas du tout, je respecte énormément le réalisateur. C'est comme si c'était un reproche qu'on faisait. Je respecte le réalisateur, pas du tout. Après, une fois qu'on était sur le tournage, enfin j'étais là pour aider, mais c'était son tournage, c'était important. Et le réalisateur bah enfin je sais pas, non c'est normal, je suis au service de l'écriture, je suis au service du scénario, je vois pas, genre je vois pas de quoi vous parlez. Et le producteur qui était là de Tetramédia, qui était là bah non mais enfin non pas particulièrement, je vois enfin en gros mais de quoi parlez-vous madame. Et moi j'étais là, il se fout de la gueule du monde. Je pense pas qu'il se fout de la gueule du monde, je pense que ça montre à quel point il y a un manque de recul chez les prods, même les bons prods, mmh. Où du coup ils ont pas l'impression d'avoir volontairement fait quelque chose, mais clairement ben tu vois le résultat, c'est drôle, c'est mieux. Et comme par hasard, le réalisateur dit je suis au service du scénario et l'auteur continue à être impliqué et c'est normal et c'est lui qui parle de sa série.
Et le réalisateur dit aussi qu'il est, enfin les deux sont au service l'un de l'autre.
Ils sont en collaboration ensemble, c'est ça. Et eux, ils te regardent comme si, bah, c'est évident, c'est normal, alors que c'est pas comme ça que ça se passe dans la plupart des autres productions françaises qui sont des catastrophes. Donc, les gars, enfin, c'est possible, regardez. Mais le fait même que eux-mêmes n'ont pas le recul de considérer que ce qu'ils font, c'est la bonne méthode. Et c'est un peu comme à l'époque des Revenants. J'ai l'impression quand ils parlaient de comment ils avaient fait les Revenants et les trucs bien dans les Revenants, ils en parlaient comme si c'était tombé par hasard dedans, dans ces méthodes-là, et sans tirer les leçons de ce truc-là. Quoi.
Le fait est qu'un tétramédia, traditionnellement, travaille bien. Donc c'est intégré dans leur esprit, c'est comme ça qu'ils doivent faire, parce que c'est comme ça pour eux que ça doit se faire, et c'est logique. De voyer le C, ils avaient déjà mis ça en place sur un village français, mais c'est dans leur ADN de fonctionner comme ça, parce qu'ils considèrent que c'est la bonne façon de fonctionner. Pas forcément que tout le monde fait de la merde et que c'est juste que pour eux, ça paraît naturel. Donc je comprends qu'ils soient... Parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent comme ça. C'est
peut-être oui, mais ils devraient bien voir... Mais ça veut dire aussi que peu de gens se rendent compte comment les autres travaillent.
Peut-être aussi.
Qu'il y a une espèce de malentendu...
C'est peut-être une façon pour eux d'affirmer que bah, oui, bah, c'est normal qu'on fasse comme ça, en fait. C'est une façon de dire, c'est pas notre
aussi. Oui, mais eux, ils ont répondu sur la défensive et ils ont à la nana comme si elle avait posé une question qui n'avait aucun sens. Et ce que j'ai trouvé dommage. Là, j'étais à côté d'elle, j'étais là, tiens, tu as fait raison. Et elle m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre, mais bon, c'était pas grave. Et après, je lui ai reparlé après Marseille et j'ai réalisé que c'était elle qui avait posé la question. Je dis, ben, elle m'a dit, oui, je fais un master de production. Je fais, ah, c'est pour ça que tu poses des questions comme ça. Déception. Vous autres, les trucs qui vous ont... Bon, moi, j'ai dit du mal de Marseille, allez-y.
Moi, j'ai eu une petite grosse déception pour Ennemi Public. parce que, soyons très clairs, en fait, moi, sur les deux séries Mania précédentes, mes séries préférées avaient été des séries belges. Donc, j'avais pris le parti de voir toutes les séries belges cette année. Et Ennemi Public, et je trouve...
Un ramassis de séries françaises mal faites, non, pardon.
C'est belge, mais c'est plein de grosses cordes. C'est pas fin. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être. Il y a des choses à sauver dedans. Donc c'est vraiment un jugement là sur deux épisodes. Mais je trouve que ouais, on arrive avec des gros sabots d'un personnage principal qui ne joue pas particulièrement, pas une personnage principale qui ne joue pas particulièrement bien. Des dialogues qui sont tout droit tirés de, on fait des copier-coller de tout ce qui est de toute série policière et de, donc voilà, c'était pas fin, c'était pas subtil, ça ne repoussait pas vraiment les limites de quoi que ce soit, ça ne renouvelait pas le genre en tout cas et ça n'apportait rien de particulier. Donc ça a été pour moi une grosse déception. Ouais.
Moi, c'est, je suis assez partagé sur Ennemi Public parce que je partage ton point de vue sur tout l'aspect enquête, tout ce qui concerne le personnage féminin de l'enquêtrice. Mmh. Qui me rappelle beaucoup de personnages que j'ai déjà vus, en fait, qui me rappelle un petit peu, on parlait de Kimmy tout à l'heure, mais qui me rappelle un peu Sarah Loon, dans sa manière physique d'être dans les scènes, en fait. Quelque chose de, j'oserais pas dire, pas du tout féminin, mais plutôt pas du tout, qui fait pas du tout attention à ce qu'elle porte, en fait. Et aussi, il y a une série qui s'appelait Mammon, où t'as un personnage comme ça qui vit un traumatisme et que tu retrouves plusieurs années plus tard avec tous des équipements de sport à l'intérieur de chez elle. Donc elle fait son jogging sur un tapis parce qu'elle veut plus sortir de chez elle. et tu retrouves ça en fait. Donc du coup, en fait, t'as tellement d'avertisseurs où tu te dis ah, ça je l'ai vu là, 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 que le truc qui fait la différence de la série, t'aurais envie d'en voir plus et il est pas assez montré, c'est tout ce qui se passe dans le, comment dire,
dans l'abbaye.
Dans l'abbaye.
Je suis tout à fait d'accord.
Avec les prêtres, ouais. Et le pédophile.
Mais quand je dis qu'il y a des choses à sauver, c'est vrai, ouais, que moi, ce serait, j'aimerais voir cette partie-là de la série.
En fait, quand on en avait parlé, je m'attendais plus à ce que l'accent soit mis sur cet aspect-là. Et du coup, le fait de toute l'enquête à côté me passe vraiment au-dessus, ça ne m'intéresse pas.
Et accessoirement, je trouve d'ailleurs que c'est la seule partie en qui a été bien écrite et qui est bien jouée.
Qui est vraiment bien jouée. Donc, parce que oui, c'est très problématique le jeu sur, ouais, sur l'autre portion.
Ouais, ouais.
Sur cette partie-là, c'est très bien joué. Il y a des choses qui se créent, des vraies questions qui se posent à ces moments-là. Autant les autres trucs ne posent pas vraiment de questions, mais la question des prêtres face à ce pédophile, ils sont censés accueillir tout le monde et quelque part, il y a un rejet de la plupart. C'est vraiment intéressant. Et il y a vraiment des bons comédiens dedans.
Bah oui, c'est bien que vous disiez ça, moi j'ai trouvé ça horriblement mal joué toute cette partie là en fait.
Ah non.
Donc
moi
je l'ai vécu complètement différemment, ouais, de vous en fait.
Moi j'avais été justement très sensible à cette partie là et je voudrais voir la suite de cette partie là, mais donc ça enlève, voilà, mais ça enlève quasiment trois quarts de la série, les deux tiers on va dire.
Alors moi j'ai trouvé que toute cette partie là était intéressante sur le papier et que la façon dont ils mettaient en scène, c'était, tu mets trois gens un peu sérifiles dans un bar, tu leur donnes de l'alcool et tu les fais brainstormer 3 minutes sur, alors là il se passe ça et là il se passe ça, et tu t'arrêtes là et tu réfléchis plus jamais et tu fais, c'est que, pour moi c'était que les clichés, les premières idées, tout en fait. Mais j'ai trouvé que tous les personnages, mais eux aussi, mais tous les autres aussi, les gens du village et tout ça, ne réagissaient que comme des, comme des archétypes, mais comme comme des automates de cette histoire et pas des vraies personnes. Et ok, mais en fait moi j'ai trouvé ça horriblement mal écrit, ces dialogues pour tout le monde.
La partie du village notamment et la partie de l'enquête, c'est vraiment, c'est un copier-coller de scènes qu'on a pu voir dans à peu près, oui, tous
les téléfilms des années 80.
Mais moi, même pas forcément, mais même dans d'autres séries. Et comme on l'a dit précédemment, c'est pas comme si des séries avec des enquêtes policières, on en a pas beaucoup. Donc on prend en fait des dialogues de ces séries-là, qu'on traduit et qu'on retransmet intact. On ne fait même pas l'effort d'en faire quoi que ce soit de personnel.
Toi, Ennemi Public, t'avais...
Moi, j'avais vu, je suis comme Dom, j'ai plutôt aimé la partie, et du coup, Léa aussi, parce que voilà, j'ai plutôt été intriguée par l'idée de, justement, de qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui ne peut pas rester en prison et qui doit sortir de prison et qui en même temps est considéré par tout le monde à la fois comme une menace et comme quelqu'un de profondément noir. Et du coup, quelle est la place de la possible réhabilitation de ces gens-là? Est-ce que il y a une place pour eux dans notre société ou pas du tout? Et qu'est-ce que ça fait sortir de nous-mêmes? C'est-à-dire comment on doit réagir, comment réagissent, bon, évidemment, les gens qui ont des enfants à proximité sont pas hyper contents, on peut les comprendre. Et en même temps, du coup, ça veut dire quoi? Qu'il a le droit d'être nulle part, ce mec-là? Enfin, c'est très compliqué. Et c'est, du coup, toute cette partie-là est super intéressante, et la partie sur l'enquêtrice est juste chiante à mourir.
En fait, moi, en fait, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est intéressant dans le concept.
Oui,
je trouve que à aucun moment,
ouais,
les deux, et moi, j'ai vu un épisode et demi, je trouve qu'à aucun moment, ils m'ont montré qu'ils avaient compris ce dont ils parlaient et qu'ils avaient des choses intéressantes à dire. Après, mon pari, et j'ai peut-être tort, c'est que tu peux regarder toute la saison et ils vont rien dire d'intéressant. Rien dire qu'on peut pas imaginer déjà là en discutant pendant un quart d'heure des tenants. Je pense, enfin, moi, c'est plus le côté, l'habitude de regarder des séries et de voir des gens, et de voir dès le départ qu'il manque des petits éléments de psychologie qui me montrent qu'en fait ils se sont pas posé les bonnes questions et que surtout ils ont pas réfléchi vraiment à la psychologie.
Moi j'ai vraiment plus l'impression que toute la partie enquête pollue complètement.
Et que du coup ils prennent pas le temps de.
Ils prennent pas le temps de creuser comme ils devraient creuser. Enfin,
ouais.
En tout cas, c'est la promesse de la série et c'est ce que moi j'attendais. Après, j'ai projeté énormément avant de voir cette série, c'est peut-être un problème.
Et c'est là que c'est intéressant quand même parce qu'il y a le côté, du coup, c'est tout le pivot de des séries qui s'écrivent en format série policière parce qu'on a l'impression que c'est ça qui amène la tension. scénaristique, alors que justement sur la majorité des séries dont on parle là, l'enquête n'est carrément pas le point qu'on a sur lequel on a percuté qui nous a intéressé. Et résultat, ça, moi j'ai par exemple, j'avais été à un moment donné dans le festival, je me suis dit tiens c'est marrant, il y a finalement peu de dramas familiaux, on n'a pas, enfin on sortait peu du format policier, comme si toutes les histoires intéressantes avaient besoin à un moment donné qu'il y ait un flic et une disparition pour nous tenir en haleine. Et c'est quand même grave d'arriver à ça. Et c'est marrant parce que je défends complètement le fait que le style policier peut être écrit de tellement de manières différentes, raconter des histoires de personnages différents, que c'est un format qui est hyper intéressant et qu'on peut jouer dessus jusqu'à la fin des temps. Mais on n'est pas obligé, les mecs. Juste, il y a aucune obligation. On peut aussi en sortir. Ce n'est pas.
Moi, quand on en a parlé la première fois, je m'étais plus ou moins fait une histoire dans ma tête où, en effet, on était vraiment sur l'abbaye, qu'il y avait une sorte de soulèvement de la population, un petit peu comme tu pourrais avoir dans un conte de fées, en fait, où t'as une bête qui est dans son château et que et je m'attendais plus à ça, en fait, et au final, me retrouver face à un truc tellement. Intéressant d'un côté et pas assez développé, et d'un autre côté un truc, c'est pas tant que c'est chiant, on l'a déjà vu 3000 fois,
mais c'est aussi mal joué, hein. Enfin, faut pas oublier, c'est au niveau fabrication, il y a des gros soucis.
Mais c'est ça, mais c'est vrai que moi, quand je disais que j'en attendais beaucoup de cette série, c'est parce que finalement, donc les deux années précédentes, c'était Cordon et Strikers l'année dernière, qui étaient des séries donc qui n'étaient pas des enquêtes policières, mais qui s'intéressait à l'humain et aux relations qu'elle pouvait avoir. Donc c'est vrai que on a eu ça sur Beau Séjour au niveau des séries belges de cette année. On a eu ça sur Beau Séjour. Moi j'ai retrouvé ça sur La Trêve également.
Moi aussi.
Et par contre, Ennemi Public est tombé totalement à l'eau, alors que humainement je trouve que quelque part quand on lit le pitch, c'est celui qui aurait été le plus intéressant au niveau des relations humaines.
Ce qui est symptomatique, c'est le personnage de l'enquêtrice,
ouais.
Où tu te dis encore un personnage où on n'a absolument pas réfléchi à qui elle était, on lui a donné un trauma. Alors un trauma et c'est tout. Et c'est ce qui l'a défini, quoi.
Et d'ailleurs, c'est les premières images du pilote. C'est sur elle qu'on est focusé, alors que non, ce n'est pas l'intérêt de cette série.
Ça aurait pu l'être s'ils avaient.
Ça aurait pu l'être.
C'est vraiment un personnage et qui s'était pas borné à ça.
Ouais.
Déception. Vous avez d'autres trucs dont vous vouliez parler, des bémols, des déceptions, des.
Voilà. Oui, moi un bémol très sérieux en fait. Pendant 3 jours, il y avait plus de savon dans les toilettes des.
Non, ça c'était anecdote.
Ah merde.
On recommence.
Oui, on n'est plus dans l'ordre.
Bon, c'est pas grave. Non, mais vas-y, tu peux dire ça.
Non,
vas-y, Alix.
Moi, j'avais une déception qui est une espèce de déception générale qui peut se porter sur toutes les éditions de Série Mania ou à peu près. Même si j'ai un contre-exemple qui me vient en tête évidemment immédiatement, qui est quand même une espèce de vision occidentalo-centrée de la série. Je évidemment, comme le disait Dominique tout à l'heure, je n'ai pas les informations de qu'est-ce qu'ils ont reçu à la programmation, les propositions de séries qu'ils ont eues, du coup je n'ai absolument aucune idée de est-ce qu'ils auraient pu faire quelque chose pour améliorer la présence de l'Asie et de l'Afrique dans ce contexte, mais j'avoue que c'est quelque chose qui tous les ans je suis ravie des voyages que me font faire les séries à Série Mania, mais que j'ai toujours un peu ce manque de me dire tiens, ça serait quand même cool d'avoir plus de séries asiatiques, plus de séries africaines, ne serait-ce que pour voir justement de quoi ils parlent. Quelque part, la qualité de la série, ça m'importe, mais pas tant que ça. Si jamais ils ont moins de moyens, et ben ils en font sûrement autre chose, et la contrainte peut être utilisée de façon différente, donc je serais ravie si un jour on poussait enfin ces barrières-là et que Série Mania représentait le monde.
Oui, alors je voudrais juste rebondir là-dessus, où justement moi c'était un de mes gros points l'année dernière, où il n'y avait aucune série asiatique, on était vraiment juste Europe, Amérique et Océanie, donc Australie essentiellement. Cette année, il y a eu de nouveau des séries asiatiques, et notamment Half-Worlds, qui est une série indonésienne fantastique, qui est juste incroyable, justement, où on est.
Moi, j'ai adoré aussi.
Où tu parlais de la.
C'est vraiment le Buffy indonésien, en fait.
Mais qui est d'une intelligence, parce que peut-être ce qu'il n'avait pas. Alors déjà, on découvre l'Indonésie et Jakarta comme ben, on n'a pas souvent l'occasion de le voir. Ce qui est
après,
quand même...
c'est à moitié en anglais, ce qui est très perturbant, mais bon.
Ça a été fait pour un public, clairement, c'est HBO Asia. Donc non, c'est fait pour un public asiatique, donc qui parle pas mal anglais. Et on voit que c'est censé être exporté au maximum.
Après, c'est selon les personnages avec qui elle parle. C'est-à-dire qu'avec son mec, elle parle en anglais, mais quand elle est dans les rues de Jakarta avec les gens, elle parle indonésien.
Mais avec sa meilleure amie, elle parle de temps en temps indonésien, de temps en temps anglais, donc
comme nous,
voilà. En fait, il y a une logique à ça.
Dans le monde de Yael et Léa, ça a complètement du sens.
Mais donc, voilà. Donc c'était déjà très agréable de voir une série indonésienne, de voir Jakarta, de voir un autre point de vue, qui plus est sur un pays qui est essentiellement musulman. Donc là, de voir une femme qui est au centre de cette histoire dans un pays musulman, ce que j'ai trouvé très intéressant. Et puis je trouve qu'ils ont eu aussi de très bonnes idées de production, notamment au niveau de la mythologie, pour expliquer la mythologie comme c'est des épisodes courts. Au lieu de ne faire que de l'exposition, et ben ils font l'exposition dans le générique sous forme d'animation. Et j'ai trouvé que c'était juste absolument brillant. Et puis le générique change d'épisode en épisode. D'accord. Donc ce qui permet aux spectateurs d'avoir les clés sans alourdir la série avec ça.
C'est ça, c'est-à-dire que le premier épisode de dans le générique, t'as les bases de la mythologie et tout d'un coup de la légende, et dans le deuxième épisode, c'est un autre aspect de la légende qui s'est passé après ou pendant, qui donne une autre information sur la mythologie. Et donc, par contre, pour trouver la suite,
ouais, voilà. Ça on va galérer.
Voilà, j'ai une amie indonésienne. Je vais essayer de voir si elle peut faire quelque chose. Elle vient de Jakarta, avec un peu de chance.
Après, pour mettre un tout petit peu intéressé à la fiction, asiatique de manière générale. C'est vrai que c'est très très différent, c'est très étranger comme mode de narration, comme rythme. Moi j'avais vu une série japonaise qui s'appelle Liar Game, qui était très sympa sur le papier, plutôt agréable à suivre. En même temps, c'est hystérique, c'est complètement hystérique, c'est du surjeu, et ça ne rend pas le truc mauvais, c'est juste qu'on n'est pas habitué à ça, quoi. Donc, est-ce que dans leur sélection, je sais qu'ils avaient sélectionné il y a 3 ans une série que j'avais beaucoup aimée qui s'appelait Woman, et une autre série sur une contamination dont je me souviens plus le titre, qui venait de Corée. Je dirais pas nord-coréenne, sud-coréenne.
Et là, excusez-moi, mais Léa vient de se tirer une balle dans la tête.
Ah, c'était très très chiant.
Mais par contre, au niveau narratif, c'est quelque part très européen friendly, quoi.
Oui.
C'est, tu comprends tout de suite, t'es pas perdu dans quelque chose qui t'est complètement, pour le coup, étranger. Donc de là à dire que ces séries-là, ils se disent non, attention, ça risque de trop choquer. Moi j'aimerais bien.
Bah, après, ils ont mis Prison School après à Ford, qui était
spécial.
Bah, ça véhicule beaucoup de problématiques misogynes internelles, de misogynie internalisée japonaise, donc c'est problématique. Et en même temps, si tu pars du principe que ça c'est acceptable ou drôle, c'est assez bien fait. Dans le genre adaptation de manga, ça fonctionne assez bien. Par contre, le côté des jeunes puceaux qui sont que des nanas en jupe courte qui montent leur culotte tout le temps ont plaisir à torturer. La tête d'Alix en dit long.
Je ne l'ai pas vue, donc comme vous vous en doutez, je suis assez dubitative.
Mais c'est vrai que j'attends vraiment qu'un jour Sériemania présente une série du Moyen-Orient. C'est vrai que le cinéma s'ouvre de plus en plus. Bon, les films iraniens, ça fait un certain temps, mais aux films du Maghreb, aux films égyptiens. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse maintenant, en série, avoir accès à ça, parce que c'est un monde qui est proche et en même temps qui est très différent.
Mais on a bon espoir, parce que j'ai l'impression que Sériemania, il y a quand même un côté... pondère ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que d'année après année, il y a de plus en plus de pays qui sont inclus. Donc c'est...
Moi j'ai un peu l'impression que ça a tendance à se centraliser quand même sur les pays du Nord, la Suède, la Norvège, la Finlande.
Ouais, l'Amérique latine est représentée.
Qui produisent beaucoup
de bonne qualité.
Et surtout, n'oublions pas.
Peu d'Italie, ouais. Finalement.
La Scandinavie, les pays nordiques ou la Scandinavie selon, mais en gros la Scandinavie en général,
il y a aussi un truc sur la médiation de la culture, c'est-à-dire que il y a j'ai lu un article il y a des années sur la raison pour laquelle la musique, les groupes suédois de musique suédoise sont populaires dans le monde entier. Bon, ils chantent en anglais déjà, ça aide, mais pas seulement. Il y a vraiment une section du gouvernement suédois notamment, mais dans les pays scandinaves en général, qui s'intéresse à la distribution et la médiation de la culture locale à l'étranger, que ce soit la musique, la pop, le classique, le jazz, tout ça, mais le aussi métal. Le cinéma, le métal.
S'il te plaît, n'oublie pas le métal.
Absolument, absolument. Et c'est subventionné, c'est aidé. Il y a des gens dont c'est le boulot d'aller dans les pays et de promouvoir les choses. Et je suis sûre que c'est pareil avec la télé. C'est évident qu'ils font ça aussi avec la télé. Donc ça veut juste, soyons clairs, c'est l'accès, quoi. C'est, ils créent de l'accès. Et je pense que pour le Moyen-Orient, c'est compliqué. Moi, je me rappelle, j'avais sous-titré une web série arabe, et je sais plus de quel pays, parce que je suis une grosse raciste et que je ne connais pas la différence entre les pays. Mais une web série sur qui était clairement, qui ressemblait. Je retrouverai le titre, qui ressemblait à. C'est un truc qui était sur Dailymotion et clairement, t'as envie de la voir en entier, t'as envie de suivre ce qui se passe et ça venait du Moyen-Orient.
C'est ça, et l'accès finalement, quand tu vois le nombre de films iraniens qui sortent par an et qui sont
essentiellement coproduits par des Français, du coup. Il y a du fric français dedans.
Il y a des coproductions allemandes aussi beaucoup.
Ouais, bah c'est ça.
Et donc, je ne sais pas, si ça se trouve, ils ne produisent pas du tout de séries et donc à partir de là, je suis en train de parler pour ne rien dire, mais.
Mais ne finis pas d'abord. Oui, c'est pas parce qu'on vient de réaliser que ça fait 3 heures qu'on parle que tu peux pas finir ta phrase.
J'aimerais, dans la mesure du possible, avoir un accès, en tout cas, à ceci.
Bon, un dernier mot. Donc, il n'y avait pas de savon dans les toilettes, ce qui a traumatisé pendant 3 jours, ce qui a traumatisé Dom. Léa, dernier mot. On n'a pas parlé de Lola Upside Down, on n'a pas le temps d'en parler. Disons que c'était un moment what the fuck, ou pour le coup, communauté étrange où il n'y a pas de meurtre. Mais on ne sait pas trop de quoi ça parle quand même. Je vous réfère à tous les blogueurs qui ont écrit sur le Upside Down. Les avis sont partagés, mais tous intéressants. Et surtout, toi, t'as un.
Moi, j'ai un dialogue d'auteur qui va bientôt sortir où vous aurez la grande joie ou pas de m'entendre parler anglais avec une réalisatrice scénariste finlandaise
qui a créé le
Upside Down. C'était assez intéressant d'en parler avec elle.
Bien que moi et Léa, on a vu qu'il y avait des grosses influences de Ingmar Bergman, et apparemment elle lui a dit pas du tout.
Je suis sûre qu'elle t'a menti.
non, c'est juste.
Non, je t'assure. Non, c'était plus David Lynch qu'Ingmar Bergman. Mais
on a trouvé les deux, hein, donc.
Nous, les deux. Mais je suis désolée, Fanny et Alexandre, les fraises sauvages, ouais. Le 7e saut, c'était partout. Mais bon.
Écoute, j'ai pas ses coordonnées, mais je vous bide. Je vous donnerai ses coordonnées. Non, personnellement, j'avais beaucoup aimé, mais voilà, c'est le type de série, soit tu rentres dedans, et tu peux être embarqué, soit tu restes complètement à l'extérieur. J'en connais beaucoup qui sont restés à l'extérieur.
Ouais, moi j'étais à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur.
J'étais à moitié à l'intérieur pour le premier épisode, et puis le deuxième épisode m'a totalement largué. Mais je suis restée juste en dehors de, même pas en dehors, alors j'étais 10 mètres derrière.
Alors que moi j'étais conquise dès le départ, j'ai trouvé ça rafraîchissant, agréable à suivre, et onirique, complètement barré, et en même temps, justement, j'avais du mal à suivre où est-ce qu'il voulait en venir, et je m'en foutais, mais complètement. Je trouvais que la réelle était sublime.
Oui. Non, mais par contre, là-dessus, je suis d'accord. Il y a plein de trucs que j'ai aimé. C'est juste qu'à un moment, je suis là. Ok, mais en fait, moi, de l'associer à Ingmar Bergman, ça m'aide à avoir envie de voir la suite, malheureusement. Et j'ai trouvé ça génial que dans le deuxième épisode, où il y a un moment, il y a un truc avec une piscine où il fait très beau, et je me dis, oh, on dirait trop Blue Velvet. Les parties joyeuses, on va dire, de Blue Velvet. Et à ce moment-là, il y a une chanson. En finlandais, je suppose, d'une nana qui chante, je dis, oh, la Julie Cruz finlandaise. Ça faisait vraiment chanson de Lynch. Donc oui, Lynch, on l'a bien vu. Mais, dernier clin d'œil, dernière anecdote, chose, Sérimania, souvenir.
Moi, je suis très fan de cette exportation de certaines séances à l'UGC Ciné-Cité Léal, où qui plus est, j'avais ma place à titrer. Donc
ce
voilà.
Ce n'est pas une blague.
Non, ce n'est pas une blague. Il y avait une place où, qu'un jour, elle a failli me piquer en arrivant.
Non. Alors, déjà, il faut dire qu'une fois on est rentré, ils ont fermé la salle et ils ont laissé finalement rentrer 10 personnes de plus. On était les deux dernières, les deux seules places. C'était la place de Léa et la place d'à côté. Donc, juste, c'était effectivement sa place. Et un jour, je lui ai dit que je serais en retard à la séance et elle est rentrée dans la salle. Elle a vu que quelqu'un était à nos places et elle a eu un coup au cœur jusqu'à ce qu'elle réalise que c'était moi qui étais en avance. Mais le moment, la tête qu'elle m'a fait, genre, tu sais la peur que tu viens de me faire? J'ai cru que quelqu'un avait pris ma place.
J'ai cru que j'allais devoir déménager un rang devant ou un rang derrière et que ça n'allait plus du tout.
Donc, pour information.
C'est à peu près ça.
C'est la place, c'est le troisième rang en partant de l'écran, complètement
sur la droite.
Collé au mur. Et oui, si un jour
on cherche numéro 3.
Donc on est proposé aux gens de dire ton nom très fort à Cérémania pour voir à quoi tu ressemblais, mais personne ne l'a fait. Donc l'année prochaine.
J'avais mes écouteurs beaucoup sur les.
Je suis allé dans cette salle-là.
Voilà.
C'est toujours dans la salle 3 et 4. Et
moi, comme petite anecdote de fin, j'ai envie de parler des bénévoles de Cérémania qui sont toujours hyper intéressants, agréables, souriants, gentils, voilà. Et dont en particulier les deux Camille, parce qu'il s'avère que j'ai beaucoup papoté avec deux nanas qui ont bossé cette année sur Cérémania, et en l'occurrence elles s'appelaient toutes les deux Camille. Voilà, les gens qui participent à ce festival, comme ceux qui l'organisent, comme ceux qui viennent voir les séries, sont tous des gens adorables et extrêmement agréables à rencontrer.
Et souvent créatifs, ceux qui sont passionnés aussi par ces sujets-là.
Donc voilà, un bonheur.
Moi j'aurais un coup de cœur pour la Room 4.0.
Pardon.
Qui était vraiment très très fun. Donc en gros, ils ont réuni 12 jeunes scénaristes encadrés par 3 scénaristes d'expérience, qui étaient David Mourier, Angela Soupe des Tech Steps d'Alice et Sullivan de Bostek. Salut Sullivan. Sullivan qu'on a rendu à ses amis depuis le podcast de Star Wars qui a duré 39 heures.
Qui n'est toujours pas encore en ligne, mais il le sera bientôt, promis. C'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute. C'est Cérémania, c'est la faute de Cérémania.
J'adore comment on passe de c'est de ma faute à c'est de la faute de Cérémania.
Et qui sont donc retrouvés pendant 48 heures pour écrire 6 scripts d'un format court. Dont le thème était si Internet avait toujours existé. Mmh. Et donc ils ont fait 6 épisodes de 10 minutes à peu près, 6 minutes, qui ont été lus par 4 comédiens. Je m'en souviens que 2, et encore, il y en a un qui m'échappe. J'ai juste Justine Le Potier.
C'est pas grave.
Sébastien Lalanne,
et après je me souviens plus. C'est très drôle, c'était une lecture en direct jouée dans les conditions d'un tournage, et c'était vraiment très très réussi. Moi, ça m'a beaucoup rappelé le Thrilling Adventurer, forcément, ça faisait un petit écho dans mon petit cœur, et vraiment belle réaction de la salle. Enfin, c'était vraiment un moment très particulier, je m'attendais pas trop à ça en fait, et j'étais vraiment conquis.
Et il me semble que c'est en ligne.
Alors,
ils n'ont pas fait la vidéo, et ils n'ont pas mis la vidéo en ligne.
Si, tout à fait. Il y a eu un périscope qui a été fait en live, et du coup, j'imagine qu'après, ils ont aussi retransmis.
Je crois sur le forum des images, voilà. Il y a un truc. Moi, le truc, ça me fait penser du coup à l'espèce de conférence série fil anonyme, série addict, les séries addict anonymes fait partout de ma détouche, qui était un bon moment, je trouve, de catharsis commune sur. Surtout que tu sentais que les grands moments, c'est quand les gens commençaient à parler des premières séries qu'ils ont aimé, genre moi je regardais Sunset Beach, et là toute la salle ah ouais. Et il y avait un moment assez
sur Sunset Beach, tu t'emballes peut-être un peu, mais
non, je t'assure que c'était vrai, une grosse réaction dans la salle. Oui, c'était Mélissa qui a dit Sunset Beach, et il y a genre la moitié de la salle qui a fait ah ouais.
Moment confession, je regardais Sunset Beach,
voilà.
En jouant, hein, je me dédouane, je ne regardais pas les images.
Mais parce que voilà, un des grands plaisirs de Cérémania, bien sûr, c'est.
Soupe qui passait genre à 17h30.
J'ai aucune idée de ce que c'est.
En rentrant du lycée.
C'est pas genre Laurie Loughlin qui joue là-dedans, non ?
Non, mais t'as plein d'actrices de seconde zone qui n'ont pas fait grand-chose derrière. C'est dramatique. Hein, mais,
Et tu regardais.
C'était ça ou les séries AB, hein, donc t'as vite fait le choix. Hein.
Traître.
S'il te plaît.
Non, mais il y a aussi ce côté, effectivement, en dehors des projections, le côté colonie de vacances. On parle avec plein de fans, plein de blogueurs, plein de trucs, et du coup, les séries addicts anonymes, il y avait un moment comme ça, on est tous, on se connaît tous un peu, ou on va bientôt tous se connaître, on est une grande famille. C'était assez sympa. Ben voilà, il y a un milliard de choses à dire en plus sur Cérémania.
On a déjà fait 2 heures, donc on va peut-être s'arrêter.
Et comme je disais, il y aura 2 voire 3 podcasts selon comment je les coupe, où j'ai eu 5 ou 6 conversations avec des gens que j'ai croisés à Cérémania, blogueurs notamment, mais aussi les créateurs de Reset, qui est une autoproduction française qui cherche un producteur-diffuseur.
Vous pouvez entendre aussi dans Dialogue d'auteur, parce que j'ai des rencontres.
Voilà. Et du coup, des conversations à la fois sur un peu ce qui se passe à Cérémania, et un peu aussi sur leur kiff série en ce moment, parce que c'est ça aussi, on parle pas que des séries qu'on regarde à Sériemania. Quand on est là-bas, j'ai eu un super débat sur Gossip Girl où j'ai enfin trouvé des gens qui étaient d'accord avec moi. Voilà, et donc je vous conseille juste d'y aller l'année prochaine, juste parce qu'il y a plein de trucs à voir. En tout cas, merci pour cette conversation, et puis un dernier tour de table pour les Twitter.
It's the Dom, ITSZEWM.
Alex.
Alia Beckett, Alia et Beckett.
Il n'y a pas un truc entre les deux ?
Non, c'est tout attaché.
Ah, d'accord.
Léa 8925.
Croit-elle, parce qu'elle est pas sûre qu'elle utilise.
Non, ça y est, je l'ai. LEAH8925.
Et moi, c'est Atielka, YAELK. Mais il y a aussi un Twitter pour le podcast, enfin pour le site, pour être plus exact, qui s'appelle I Cannot Sit Still. Donc c'est ICA2NOT. S-I-T-S-T-I-L. Un seul L, parce que l'autre était déjà pris. Arrêtez de vous moquer de moi. Pourquoi tout le monde rigole?
Parce que c'est pas le débat pour le téléphone.
Donc, on voudrait remercier aussi le Daily Mars qui parle de nous chaque fois qu'on fait un podcast, et c'est très très cool. Et en plus, on a beaucoup passé de temps avec les gens du Daily Mars. Hein, Alix, pendant Sériemania. Je vous conseille de lire tous leurs articles. Je mettrai un lien pour toutes les séries, même quand on n'est pas d'accord avec leurs opinions. Hein, Guillaume Nicolas, c'est à toi que je parle. On se retrouve très vite pour tous les podcasts qu'on n'a pas encore mis en ligne mais qu'on a déjà enregistrés. Et bonne série d'ici là. Au fait, j'ai vu Rogue One, je t'ai dit que j'avais vu finalement le putain de trailer de Rogue One.
Alors.
Oh! Now! I want it now! Mais ouais, grave. Grave, grave, grave.
Et t'as vu la réaction sur la table?
Ah non, c'est encore une fille!
Ah, Rogue One! Les Français!
J'avais compris Rogue One! Genre G-R-R.
Non, je ne sais pas!
Pas une fille! R-O-G-W-A-N!
Et pour toi, ça fait des films français.
Non, je me demandais si vous parliez français. En fait. Je sens que ce podcast va être un grand n'importe quoi, en fait.
Mais c'est pour ça que j'ai promis dans l'intro que ça le serait encore plus que d'habitude. Pour moi, j'ai pas parlé d'Assenu à ce moment-là. Mais
tu vois, même avec trois lettres, hein, on s'est pas appelé.
C'est pas NSU ?
Si, mais c'est pas SNU.
Et en plus, je considère qu'on est toutes les deux franchement très intelligentes, quoi.
Et on s'est pas éplé.
On s'est pas éplé. Et on a envie de pleurer quand quelqu'un nous épelle quelque chose parce qu'on comprend pas. Et c'est vrai que moi, c'est au bout de 4 lettres, je panique. J'ai une espèce de sueur froide qui m'arrive. Non.
Là, je me retiens littéralement de ne pas pleurer dans ce.